Das machen.
Hello, sorry.
Welcome in the family, the Breaking Vibe family. Yes, you are in 9, 9 p.m. every time, every day on your chopper and radio podcast game.
It's sunny.
I will try this little drug now. You know, in Albuquerque, New Mexico, you know the
yeah, the blue mess.
The blue mess.
Amazing.
Yeah.
The blue.
Yeah, it's yeah. Amazing. It's amazing.
Yang, somebody tells me the... Oh my God, this is the best thing I've done in my world.
Oh my God.
I've did.
C'est la meilleure chose que j'ai fait dans mon monde.
Jesse.
Say my
Jesse.
Name?
Jesse.
My name, bitch.
Jesse Pinkman. I'm Pinkman.
Yeah,
I'm Jesse Pinkman. Jesse Walter White. C'était un extrait de la comédie musicale Breaking Bad. Tous les soirs au Théâtre du Moucheron, retrouvez-y Yves Le Châtel dans le rôle de Walter White.
Yves Le Châtel.
Et attention, grosse surprise, Julien Lepers dans le rôle de la mouche.
Nous avons l'appel d'un auditeur, excusez-moi, je le prends tout de suite en ligne.
Je le prends tout de suite en ligne.
Alors, oui, bonsoir monsieur.
Je suis en plein enregistrement ou quoi?
Oui, bien sûr monsieur.
Oui, vous êtes dans Feta Béa.
Fait en hors-série pour le coup.
Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos expériences de drogue, monsieur?
Oh non, j'en ai beaucoup trop.
D'accord, mais il y en a bien une mémorable, une qui vous a marqué et qui vous marquera jusqu'à la fin de vos jours.
Bah oui, effectivement.
Nous vous écoutons.
C'est quand on a essayé avec un ami, on était un peu défoncé, effectivement. Tu connais bien, Romain, d'ailleurs, l'endroit, c'est...
Pas de nom, s'il vous plaît.
On ne se connaît pas.
De nom,
on ne se connaît pas, je ne sais pas qui vous êtes.
Vedamos el camino, veramos la distancia. Y yo será, pero te quiero.
De mi corazón. Faut absolument qu'il y ait le corazón toujours.
Walter White s'est lancé dans le trafic de shit. Nous le suivons actuellement dans les cités les plus dangereuses de Paris. Walter White. En situation. Salut Walter White, alors là tu es toi-même dans le hall, tu viens livrer ta livraison toi-même.
Ouais, tranquille.
Tu t'appelles Walter White
Ouais, Walter White, c'est moi.
En référence peut-être à la série Breaking Bad
Non, trop pas, ils ont le même nom, c'est un hasard.
Excusez-moi, j'interromps votre blague nulle, est-ce que vous avez vu qu'il y a un mec qui est recherché pour trafic de meth et qui est le sosie de Bryan Cranston? C'est incroyable cette histoire.
Ouais, j'ai vu ça.
Oui, c'est fou.
Yo bitch!
Qu'est-ce que tu penses de la série Breaking Bad? Est-ce que c'est pas genre la meilleure série du monde entier, de tous les mondes et dimensions parallèles confondues?
Le gros problème en fait, moi, Breaking Bad, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on peut parler de tous les acteurs, de leur jeu, du scénario, etc., qui est juste monstrueux. Moi, le seul problème, c'est que j'arrive plus à regarder Malcolm.
Tu m'as flingué, frère.
Il m'a tué!
Voilà.
No in a world, Jack. What do you mean, no in a world?
It's not that kind of movie.
Oh? Okay.
Tight, yeah!
You two suck at peddling meth.
I am not in danger, Skyler. I am the danger. I am the one who knocks.
This is my own private domicile, and I will not be harassed! Bitch!
Say my name.
Yeah, Mr. White. Yes, science.
You're goddamn right.
Bitch, welcome in Feta Béa, le podcast dans lequel blabla, objectivité, bande annonce.
On s'en bat les couilles aujourd'hui.
Alors on s'en bat les steaks, c'est hors série. On est là pour le fun. D'ailleurs, hein, les doigts de pied en éventail, le cul en amande aujourd'hui. Les gars, moi je le dis.
Le cul en amande,
oui. Je pense que ça doit exister. Croyez-moi, je pense. Aujourd'hui, on part en territoire qui a déjà conquis nos cœurs depuis longtemps, puisqu'on va parler de
El Camino.
El Camino. Breaking Bad Movie.
Breaking
en français,
Bad
ça
movie.
Veut dire un film
qui casse mal.
Ouais, cassant mal. Ouais.
Et on espère qu'on va bien se faire mal casser par ce film. Parce qu'on va parler aussi du coup aujourd'hui, hors série, on va parler aussi de Breaking Bad, la source de ce film. Breaking Bad, je le dis tout de suite, on va arrêter les débats. La meilleure série du monde et de tous les univers ouais. parallèles confondus. Toutes séries confondues, tout genre confondues.
Après un gars et une fille, bien sûr.
Après... J'avoue, la saison 10 de un gars et une fille, c'est quand même un chef-d'œuvre.
On a des passages un gars et une fille dans Breaking Bad aussi. Skyler and White.
Heureusement que t'as dit que c'était un hors-série parce que ça part n'importe comment.
C'est pas grave, on est là pour rigoler. Donc aujourd'hui, Béa Del Camino, on va se faire ensemble. Et pour cela, pour vous introduire qui sera avec moi aujourd'hui, je vais faire le tour de la table et revisiter nos répliques préférées passées dans le traducteur québécois. Avec moi autour de la table pour parler d'El Camino aujourd'hui, Kevin est là.
Je suis le danger. Je suis celui qui toque.
Il fait tellement par-up. Je suis le danger. Je suis celui qui toque.
Non, merci monsieur, on n'est pas intéressé. Merci. C'est bon, vous pouvez. Partir.
Je suis témoin de Jéhovah, je toque.
Ça va dans l'aspirateur.
Johanna est aussi là aujourd'hui avec nous.
Ouais, monsieur Blanc, ouais, ça c'est la science!
J'ai reconnu.
Yeah, science!
Monsieur
ouais.
Blanc, quoi. Tu dis la série, si elle avait monsieur été française, Blanc. Ça serait nul en fait, juste.
Et Walter, ça aurait été quoi, Bernard?
Bernard Blanc.
Bernard Blanc, professeur de chimie à Montfermeil.
Et on change vite fait son pseudo, on met Eisenhower, un truc comme ça.
Marie Curie. Yo, Marie Curie. Tu as sacrément raison.
Et d'ailleurs, ça nous permet de faire un clin d'œil à Alice Guy, qui est, on le rappelle, la Marie Curie du cinéma.
Oui, Breaking Bad n'existerait pas sans Alice Guy. Ouais, on la remercie.
Sûr, et oui, ça fait sens.
On peut la remercier aussi pour tout ce qui est genre Teletubbies et Peppa Pig, parce qu'elles en fait partie aussi.
Et Petit Potam, bien
pas
sûr.
Pas que de belles choses dans cet héritage.
Ah ben, on récolte ce qu'on sème.
La pauvre.
Clément est aussi là aujourd'hui, autour de la table, pour sniffer de la meule, pour parler de Béa.
Tu connais l'occupation et je connais la chemise.
What? C'est alors, quoi cette réplique?
You know the job.
Non.
Non, okay.
Tu connais l'occupation
et je connais la chemise. C'est volontairement une très mauvaise traduction.
Ah putain.
D'une réplique culte.
Wow, je bloque.
You know the business and I know the chemistry.
Oh putain, la chemise.
I know the chemistry.
Ah ouais, mais c'est pire que mal traduit.
Là, c'est le Québec, le petit Québec, là, c'est passé dans...
Ah, elle est ouf, on n'a jamais trouvé.
Traduction Wikipédia.
C'est vers Labrador, là-bas.
Les personnes me présentent, moi. Dites mon nom.
Romain.
Romain. Romain.
Vous avez sacrément raison.
Goddamn right.
Ça marche très, très pas en français.
En français.
Non, pas du tout.
D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent témoigner, qui l'ont vu en français, ça nous intéresse.
Alors, le sommaire de l'émission, les cocos, aujourd'hui, évidemment, on parlera d'El Camino en se faisant sa BA. Mais chose intéressante aussi, c'est que ce sera le condensé de nos deux rubriques phares, en fait, dans cet épisode hors série, c'est qu'on va voir entre-temps le film. Donc, on enregistre la BA là tout de suite, on se la démonte ensemble. Et ensuite, on se met le film, on se met bien, on s'ouvre une petite binouze, on se met les doigts de pied en cul de chèvre.
Et le cul en amande.
Et on se mate El Camino et on revient tout de suite après derrière les micros pour vous dire en fait ce qu'on en a pensé dans un match retour du tonnerre. Donc voilà, ça va être le programme aujourd'hui. Et évidemment, on va en profiter pour parler de, je le rappelle, la meilleure série du monde entier et
Mad
de
Man.
Tous les univers confondus. Et non, justement, on
passe
ces
aimé.
Pauvres gars qui font des pubs avec des costards, cravates qui coûtent plus cher que mon appart, que je n'ai pas d'ailleurs.
D'ailleurs, on passe une annonce si vous avez une location sur Paris.
Il est tout seul avec son micro là.
Ce serait pas mal pour,
mettre,
pour y mettre mon labo portable.
Les gars, je peux vous dire un truc avant qu'on commence. J'ai une révélation terrible à vous faire.
Vas-y.
C'est que j'ai pas fini Breaking Bad.
Oh putain.
Je me suis arrêté à la fin de la saison 4 et je me suis pas arrêté parce que j'aime pas. Je me suis arrêté avant-hier parce que j'ai voulu rattraper le bateau en vol. Putain, le bateau, ça vole pas, qu'est-ce que je raconte ? J'ai voulu rattraper le train en marche, et sauf que j'ai pas eu le temps de tout binge-watcher. Du coup...
Mais tu en es où, alors ?
Je suis à toute fin de la saison 4, j'ai commencé 15 minutes de l'épisode 5, mais je me suis rendu compte que c'était déjà trop tard.
Mais tu vas te faire méga spoiler, là, dans cet épisode.
C'est la vie, j'avais 7 ans pour le faire, je l'ai pas fait.
C'est vrai, c'est vrai.
T'as qu'à poser des questions sur ce que tu vas voir, mais à mon avis, t'auras pas beaucoup d'éléments, parce que je crois que... La bande-annonce, en fait, montre que le film commence direct après le dernier épisode de la saison 5.
Absolument.
Quoi. Et ouais, mais t'inquiète pas, Ron Paul a spoilé tout le monde sur un talk show et j'ai vu.
Ok, merde.
En deux minutes et demie, quand même, un record.
Ouais. Bon, bah, de toute façon, de toute manière, ouais, on va en profiter pour parler de ça. On va recoller, du coup, les images de la BA avec la dernière saison.
Et préciser 5. Qu'on va spoiler, forcément.
Ouais, forcément. Là,
si vous n'avez jamais vu Breaking Bad, bon.
Ouais, mais je pense que si les gens, ils ont cliqué et qu'ils sont là, c'est qu'ils ont vu Breaking Bad.
Mais peut-être ils se disent que c'est un film mexicain sur Netflix, tu vois, un truc trop indé et tout. Non, El Camino. Pas...
Tout le monde a déjà éteint, là. Ah, ok, ils auraient pu le dire dès le départ, quoi. 15 minutes qui parlent tout.
Donc oui, c'est la suite de Breaking Bad, hein, la série. Voilà.
Et d'ailleurs, j'en profite pour... passer un petit coucou aux amis du début de la fin, le podcast d'ailleurs qui ont fait un épisode sur Breaking Bad. On n'est pas en train de voler votre job là pour le coup. On va forcément relier cette passion commune qu'on a pour la meilleure série, je le rappelle, hein, la meilleure série du monde entier et de tous les univers parallèles confondus.
On avait dit, oui.
Voilà, me parlez pas de galactique truc et Battlestar Mush là. Le seul, c'est quoi ? Ça sert à quoi ce genre de série ? De streamer après en cosplay au Comic-Con, c'est ça ? Laissez-moi rire, on parle de série d'hommes là. Là, on est sérieux, ok ?
Oh là là, sexisme direct !
Non, mais d'hommes et femmes. Je vais couper ça.
De poigne. D'hommes et femmes de poigne.
On parle de série d'humains, ok ?
On se comprend.
Ok, elle va pisser au plein milieu okay. du podcast.
On est dans du hors-série, on s'est dit qu'on justement on y allait.
Et on va vous faire un petit peu partager notre intimité. Vous avez peut-être envie de savoir ce qui se passe pendant un épisode. Bien, voilà, on va des fois pisser.
Voilà, c'est du commun.
Souvent même, parce qu'on boit énormément de bière, on doit l'avouer.
De bière.
Voilà, l'épisode 20 n'était pas comme ça isolé, on est toujours bourré en fait. Hein. C'est juste qu'on a surjoué.
C'est juste qu'on joue très bien la comédie.
Voilà.
J'ai envie de vous poser une question avant qu'on se rentre dans la bière quand même.
Ouais,
moi, je veux cette question que tout le monde attend en fait. Que pensez-vous de Breaking Bad ?
Non, mais c'est vraiment. Pas possible comme question.
Est-ce qu'on n'est pas d'accord c'est que vaste. C'est, je le rappelle, la meilleure série du monde entier et de tous les mondes parallèles confondus. Voilà, me parlez pas de gars qui sont perdus sur une île avec un avion qui s'est écrasé, 4, 8, 15, 16, 23, 42, ne me parlez pas de ce genre de délire. Moi, je vous parle d'une série là qui a...
On n'a pas déjà dit ça.
Alors,
il faut que ça rentre. En
je peux répondre.
Vas-y.
Ben, oui. Personnellement, je trouve que tout scénariste en herbe devrait absolument regarder cette série parce que c'est une leçon d'évolution de personnage, c'est une leçon de scénario et c'est une leçon d'avancée, de parcours au fait de personnage. On voit l'évolution et dans la réal. Et dans l'évolution des personnages et dans le scénario. Et c'est juste un régal à regarder. C'est magique, quoi. Et même sans l'analyser hyper techniquement, on s'attache plus ou moins aux personnages en fonction des moments. Et il y a tout le temps une idée ingénieuse de scénario pour relancer le truc et pour garder le spectateur en haleine jusqu'au bout. C'est du génie, quoi.
C'est du génie absolu. Moi, je voudrais te remercier, Romain, parce que c'est toi qui m'as fait découvrir Breaking Bad.
Je t'en prie.
Tu m'as saoulé pendant des mois, mais regarde Breaking Bad et tout. Et en fait, un soir, et c'est vraiment inexplicable, je me suis réveillé en pleine nuit et je me suis dit, il faut que je regarde Breaking Bad. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai commencé à regarder sur des sites Lego, la série.
Tu avais regardé la série Lego, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir. Donc, du coup, je suis parti regarder la série Lego.
J'ai regardé Ninjago et je te remercie, Romain, c'est super. Non, pas du tout, non, Breaking Bad. Et c'est juste génial. Que dire, Bryan Cranston, peut-être la meilleure interprétation d'un comédien de l'histoire d'une série. Je ne sais pas comment on peut être plus impliqué dans un rôle que ce qu'il fait. Effectivement, ce que tu disais, Johanna, c'est une leçon de scénario. C'est aussi, je trouve, un moment où le cinéma rejoint la télévision et vraiment, on a une expérience même plus intense qu'au cinéma parce qu'on s'attache tellement aux personnages, ça dure tellement, ça dure 5 saisons, donc on a le temps de s'y attacher et tout ça. Et je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant dans Breaking Bad, c'est qu'à un moment donné, c'est ce que tu viens de voir, à la fin de la saison 4, il commet un acte qui est complètement immoral et injustifiable en fait. Et c'est la bascule, je trouve, dans la série, c'est qu'on reste quand même à regarder ce qui va arriver à cette personne, mais moi c'est le moment où je ne l'ai plus aimé, le personnage, et Walter White. C'est-à-dire que jusque là je pouvais comprendre toute sa construction, tout son parcours, et à partir du moment où il fait ça, je me suis dit là non, c'est trop. Et pourtant j'ai continué de regarder, même si c'est un énorme enfoiré, j'ai continué de regarder pour savoir ce qui allait lui arriver, et à la fin j'ai eu de l'empathie pour lui, et ça c'est quand même très fort, parce que je sais pas si on peut dire ce qu'il fait.
Oui, mais justement, j'allais te le dire, vas-y, balance.
Il empoisonne un enfant, donc c'est difficile de faire pire. Et pourtant, on reste à regarder cette série en se disant mais putain, j'ai trop envie de savoir ce qui lui arrive à ce connard, quoi. Putain.
Mais pas que, parce que t'as aussi tous les autres personnages qui gravitent autour. Je trouve génial la construction de Skyler, qui est la femme de Walter White. Et moi, pendant 3 saisons, j'en pouvais plus de cette meuf, je pouvais pas la blairer. Dès qu'il y avait une scène avec elle dedans, je disais mais brûlez-moi ça, enlevez-moi ce personnage de là, qu'est-ce qu'elle fout là. Et elle a une bascule aussi qui la rend hyper importante, hyper intéressante, et où tout d'un coup, on a envie de savoir elle aussi ce qui va lui arriver, comment elle va gérer les choses et comment elle va se retrouver impliquée dans tout ce bordel que son mari a créé.
C'est un équilibre, cette série, entre tout le temps sur la bascule de la morale et du point de non-retour. On est toujours là en train de flirter avec le point Godwin, quoi, ouais. Au moment où bah, là, c'est fini. Et c'est vrai qu'il y a cette tension qui est toujours présente et qu'il y a toujours un moment pour le relancer, que ce soit dans la vie de couple avec Skyler, qui au départ franchement est une vraie connasse, et puis qui finalement en fait on a envie de prendre son parti, justement aussi parce qu'on
c'est une victime.
On finit par détester ce personnage. Est certainement l'un des mieux traités dans l'histoire de la série. C'est enfin ce personnage et aussi Jesse, hein, vraiment les deux principaux. C'est incroyable ce fourmillement d'idées qui te font dire à quel point tu peux Breaking Bad, quoi, directement. Tu veux partir, ouais. Partir en couille, c'est fini, ouais. Et c'est toujours ça, ouais. Et t'es en tenue, en tension, et la série fait que monter, c'est une cocotte qui bouge jusqu'à l'explosion.
La saison 5, c'est incroyable.
Et c'est vraiment rare dans le cas des séries de trouver un graphique qui ne fait que monter, quoi. D'épisode en épisode, ça ne fait que monter, il n'y a pas un moment où ça redescend, quoi. Ouais.
Et même dans le rythme, au fait, c'est qu'au début, la série prend vraiment son temps. C'est-à-dire que ça installe un univers, des personnages, des psychologies de personnages, un rythme qu'on peut trouver assez lent au début.
Oui, c'est lent, clairement.
Personnellement, ouais. M'a pas dérangé, parce que c'est bien de prendre son temps aussi. Et c'est ce qui fait la différence avec le cinéma. C'est qu'on a le temps de prendre son temps et qui, petit à petit, monte aussi en rythme et qui devient complètement dingue, quoi. Moi, à la fin de la saison 4, je trépignais, je savais pas ce qui allait se passer. Même dans le train, dans le RER et tout, je pouvais pas attendre. Je cliquais sur les épisodes et je regardais, quoi.
Ouais.
Et toi, Kevin?
Moi, j'ai un rapport particulier à Breaking Bad parce que, en fait, c'est la première série que j'ai vécue comme un film, en fait. Enfin, y en a d'autres après qui ont, avec True Detective notamment, qui ont fait ça, où t'as vraiment cette sensation. Mais là, c'était la première fois que je ressentais ça. Et en plus, la première fois que j'avais regardé, j'avais suivi pendant les 3 premières saisons, et après, je sais plus pourquoi j'avais arrêté. Et j'avais pu regarder pendant jusqu'à la fin. Quand je me suis remis, la saison 5 était sortie depuis un an, je crois. Et je sais pas pourquoi, à un moment, pourtant j'adorais. Et puis,
lien ne fonctionnait plus, peut-être.
Peut-être que Mega Vidéo a eu des problèmes avec le FBI.
Mega Upload.
Mega Upload, oh là là. La Madeleine de Proust, j'ai envie de dire, c'était il y a quoi, il y a 5 ans, mais bon.
Ouais, à l'ancienne.
Peut-être plus.
Et bref, après, donc je l'ai revu, j'ai voulu voir la fin quand même, et du coup, je me suis retrouvé à tout retaper. Donc j'ai pu binger en fait vraiment tous les épisodes, quoi. Et là, je me suis dit, mais c'est même pas qu'une impression juste visuelle, c'est une impression de construction, en fait. C'est que t'as vraiment la sensation, je trouve, que dès le premier épisode, ils savaient où ils allaient. C'est un truc de fou.
Et en plus, c'est pas exactement le cas d'après Vince Gilligan, ouais. Mais c'est tellement maîtrisé de saison en saison qu'ils ont en fait réadapté tout le temps l'histoire à des nouvelles péripéties, à des personnages. Par exemple, le personnage de Mike et le personnage de Saul n'étaient pas du tout prévus pour être des personnages récurrents. Jesse devait mourir à la fin de la saison 1. Enfin, ouais. Y avait plein de choses comme ça. Et en fait, ils ont tout le temps remis le cap vers de nouveaux horizons, et pourtant on n'a jamais l'impression que la série se perd, en fait.
Ouais, il n'y a jamais de creux, quoi. C'est un truc de fou.
Et c'est beau qu'il ait fait en faisant confiance à des comédiens, c'est-à-dire qu'ils ont découvert des comédiens, ils les ont trouvés géniaux, et du coup ils maintiennent le personnage pour ça. Et c'est assez stylé, quoi. Je sais pas si ça se faisait trop en série.
Et d'avoir récupéré Bryan Cranston de Malcolm, qui déjà était iconique, hein, dans cette série. Ça reste un des personnages que je préfère dans la série Malcolm.
C'est Hal, quoi.
C'est putain de Hal, le père obsessionnel.
Et qui était purement dans la comédie, et là découvrir que ce mec a une facette tellement, enfin il peut tout jouer, quoi.
Il s'est battu, non, pour le rôle, je crois, il s'est vraiment battu.
Alors je sais d'anecdotes comme ça perdues au fond de moi-même que c'était Matthew Broderick. Matthew Broderick, hein, qui incarnait l'inspecteur Gadget, qui était un premier choix de casting, et puis qu'il a refusé, et que je crois que
John Cusack, il me semble.
Ouais, John Cusack. et que finalement c'est Bryan Cranston et je crois qu'il s'est battu ouais,
c'est Vince Gilligan
moins,
qui s'est battu pour l'imposer
ouais. Ouais, je crois
de...
que Vince Gilligan et Bryan Cranston se sont battus parce que Vince Gilligan le voulait et Bryan Cranston ouais. n'a rien lâché jusqu'à ce qu'on
en fait Vince Gilligan pour retracer son parcours il a été scénariste dans X-Files et il a réalisé notamment un épisode je crois que c'est lui qui l'a réalisé il a réalisé un épisode d'X-Files dans lequel il y avait Bryan Cranston et je crois justement dans un rôle dramatique et il s'était dit putain mais ce mec pourquoi on le connaît pas et du coup il s'est battu pour l'imposer à la chaîne et la chaîne c'est AMC qui est au départ une chaîne de cuisine donc là aussi c'est hyper atypique comment ils sont arrivés à faire cette série sur cette chaîne et au final parce que c'était une chaîne de cuisine ils ont eu une liberté artistique énorme pour faire la série parce qu'ils y connaissaient rien en fait en fiction et après c'est la chaîne qui a fait Mad Men et qui a fait
une chaîne de cuisine
ouais
c'est qui vraiment ont fait Let's Go Dead aussi non c'est ça c'est...
Let's Go
Chess yes. aussi The Walking Dead
ouais c'est ça
mais
c'est
oui au départ
c'est dingue
ouais.
je savais pas ça putain.
Ouais, bah ça, si vous avez l'occasion, d'ailleurs, enfin pareil, si vous êtes dans le cinéma ou scénariste ou que vous voulez être réalisateur, etc., franchement, regardez les bonus.
Les sites de cuisine. Les...
Non, non, mais.
Vous allez sur le marmiton, marmiton.org.
Mais non
frère, tu fais une bouillabaisse d'enfer. Bon, après,
super
t'as du mal à payer le loyer, mais au moins tu te régales.
Non, mais regardez
t'as ton, t'as ton film là dans les recettes.
Oh, c'est pas vrai.
Entre deux, entre les tagliatelles à la moule et la bouillabaisse de Marseille.
Ajouter un peu d'encre de sèche.
Un
si
film de Clément.
Bref, regardez les épisodes commentés de Breaking Bad parce que Vince Gilligan est passionnant dans ce qu'il raconte et c'est le mec hyper honnête. Genre, c'est le mec qui va dire ouais, là dans cet épisode, j'ai grave foiré ce plan, je voulais faire autre chose, mais en fait j'ai fait ça et c'est
trop
intéressant.
Trop cuir, j'ai mis thermostat 5. là, j'ai oublié le sel. C'était. Bah oui, là c'est une scène très importante, il y avait une mouche hein, dans la cuisine.
Ouais, là j'aurais dû mettre du piment d'Espelette, désolé.
Non, mais ok, bon, on se fout un peu de ta gueule, Clément, mais on a.
Non, c'était intéressant ce que tu disais en plus.
Non, mais les épisodes commentés, ouais, c'est des leçons sur une leçon, parce que c'est clair, c'est une leçon de cinéma, c'est Johanna qui a dit le mot, je crois. C'est une leçon de cinéma, cette série.
Commentée.
Ça dépasse juste le médium
t'as
quoi,
des,
de,
t'as des,
de la série.
T'as des épisodes en réel, ils sont dingos, quoi, je trouve.
Ouais, complètement.
Tu prends des claques, hein, sérieux.
Et ça
d'ailleurs, il y a plein de motifs de réalisation qui ont été récupérés après, comme par exemple les plans dans les objets, c'est-à-dire un plan sur l'aspirateur. L'épisode de la mouche qui est
la
devenue
pelle,
mythique
quand il va quand il prend une pelle à un moment on a la caméra qui est accrochée
dessus. Oui, exactement. Et ça c'est des motifs qui ont été repris et j'avais lu aussi j'avais écouté dans un bonus que Vince Gilligan expliquait qu'à l'époque c'était pas possible de faire un clair obscur sur un personnage sur un comédien. C'était tout le temps en plein feu.
Il fallait tout le temps qu'on voit les yeux, c'est les chaînes de télévision américaines qui a imposé ça,
c'est
il fallait qu'on voit les yeux du comédien et c'est une des premières séries qui a permis d'avoir des personnages dans l'ombre. Contrasté, etc.
C'est ça. Et au-delà de ça, je trouve que c'est aussi une des premières séries qui nous a appris à accepter des physiques quotidiens. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, on avait des espèces de top modèles dans toutes les séries avec Beverly Hills et tout ça.
Amour, gloire et beauté.
Et là, voilà, on nous met un prof de chimie qui met des caleçons dégueulasses.
Blanc. C'est même pas des caleçons, c'est des slips.
C'est des slips dégueulasses.
C'est
slips kangourou avec la petite poche et tout.
Et voilà, ils arrivent à nous intéresser à des gens quotidiens et on vit leur quotidien en parallèle. L'aile de notre quotidien parce que c'est une série et qu'on vit les épisodes les uns après les autres et c'est réussi quoi.
Dinguerie. Bon, je pense que pour conclure, on peut dire que Breaking Bad c'est
on
genre
aime bien.
La meilleure série
du
monde entier
temps,
et
de l'univers,
tous les
ouais.
univers
aussi,
et
ouais.
dimensions et autres mondes ouais. parallèles confondus.
Des galaxies, exactement.
Ne parlez pas de dragons, de dragons, de meufs blondes, de Dracarys et de you know nothing machin. C'est vous qui knowz nothing les gars. Vous regardez Breaking Bad.
Est-ce que tu viens de conjuguer un verbe anglais à la française?
Et
you
moi,
know say no sing.
Moi, j'aime bien. Franchement, c'est bon.
À l'arrêt,
approuve.
Je suis franglais. Je doue le podcast Breaking Mal parce que je love beaucoup cette TV show.
J'ai une question, moi, petit débat.
Vas-y.
Est-ce que Breaking Bad ne fait pas partie de ces séries avec quelques-unes qui ont relancé déjà le game de la série
totalement.
À Hollywood et qui ont sublimé aussi quelque part le cinéma. Parce qu'avant, on ne voyait pas des acteurs de série au cinéma.
Ouais.
Et aussi, les films se complaisaient aussi peut-être à une époque dans des formules un peu faciles. Et le fait de voir que des séries qui sont sur petit écran et que les gens suivent régulièrement sont aussi bien filmées que des films, est-ce que ça n'a pas forcé les studios à se poser des questions et à monter le level des films
aussi? Je pense exactement, et je pense que c'est aussi devenu genre le critère de base Breaking Bad, parce que tu as des séries, c'est un peu comme Jurassic Park l'est pour d'autres films, où tu te dis attends, mais il y a eu Jurassic Park et il y a ça 15 ans après. Bah, avec Breaking Bad, pour moi, c'est une pierre angulaire de
c'est
la série aujourd'hui.
Étalon, ouais.
Le maître étalon, c'est le mot que je cherchais. Le maître étalon, quand tu vois des séries aujourd'hui, tout de suite, c'est là, tu le compares à ça. Quoi. Tu fais non, après Breaking Bad, tu peux pas permettre ce genre de choses.
Après, je sais pas si c'est vraiment le maître étalon, parce qu'à cette période-là, tu as eu quand même pas mal de séries qui ont fait ce choix-là, notamment les séries HBO avec Six Feet Under.
Des Sopranos.
Ah, c'était avant en plus. Ouais, c'était avant.
Donc en fait, je crois que juste que Breaking Bad, ça a été un peu l'aboutissement de cette mouvance-là qui a convaincu plus que, en gros, la série qui a vraiment fait changer les choses. Parce que j'ai l'impression que tous les créateurs de séries, tous les showrunners actuels, un petit peu qui font vraiment plusieurs séries différentes, enfin qui sont très présents en tout cas, ils avaient vraiment des ambitions artistiques qu'avant, je pense que la télé n'avait pas. Et enfin, c'est comme une espèce de nouvelle vague de la série, j'ai l'impression.
Ouais.
Absolument. Après, pour te répondre, Johanna, sur les acteurs, la particularité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs de Breaking Bad qui sont passés au cinéma et ils ont pas, pour l'instant, une carrière en dehors de Bryan Cranston. Qui a été nommé à l'Oscar et tout pour Trumbo, mais par exemple Aaron Paul, on l'a vu dans Need for Speed, on l'a vu
dans le film avec les drones là.
Ouais, j'ai oublié le nom. Enfin, mais je veux dire, il a pas, par rapport au retentissement qu'a eu la série, il y a pas vraiment un acteur de la série qui a percé au cinéma quoi.
Oui, c'est vrai.
On a quand même encore un peu cette cloison.
Moi, ça marque quand même une bascule, parce que même si ces acteurs de cette série n'en ont pas bénéficié, il y a eu un après Breaking Bad où on a vu des comédiens de séries passer quand même au cinéma, parce que le niveau des séries ne pouvait plus être le même. Comme Romain disait, tu pouvais, après Breaking Bad, il y a des trucs que tu pouvais plus faire. Quoi.
Absolument.
Et inversement, je crois que ça a peut-être aussi lancé la mode inverse de mettre des stars de cinéma dans les séries.
Ça, oui. Ouais.
Même si c'est pas le cas dans Breaking Bad vraiment. Même s'il avait fait des films avant, quand même Cranston, c'était pas une star quoi.
Ouais.
Je pense que ça a donné, comme ça a fait résonner un peu l'aura de la série en qualité, et du coup les gros acteurs de cinéma, ils se sont dit bah c'est là qu'il faut être. Et je pense que ça a joué pas mal là-dessus.
Ouais, ça, c'est vrai qu'il faudrait qu'on remonte un peu le temps, mais je pense que c'est ça. En tout cas, en ce qui concerne l'avenir et le cinéma, là pour le coup, on a un film, ça sort sur Netflix.
Oui.
On pourra pas le voir au cinéma. Je crois qu'il sort aux États-Unis dans quelques cinémas, il me semble. Je l'ai lu sur leur page Facebook, Camino. Donc le film Netflix qui est sorti aujourd'hui, moi je suis impatient de le voir, j'attends depuis ce matin parce qu'on enregistre là en fin d'après-midi.
J'en peux plus là.
J'ai fait aucun réseau aujourd'hui pour pas me faire spoiler ou quoi que ce soit. Et il y a une bande annonce à ce film, c'est pas parce que ça sort sur Netflix que ça fait pas des bandes annonces. Et tout de suite, je pense qu'on peut se lancer dans le démontage de la BA. On a eu le temps de bien tailler un bout de
bataille. Deux heures.
Sur le truc, ah le hors-série, on change les trucs, on change les trucs de sens, on bouge les meubles.
Une version longue, 3h50.
On se lance à la BA.
C'est parti.
Allez. Let's go, yo, bitch. Let's go, let's cook.
You ready? Camino, El Camino, Breaking Bad Movie, El Camino.
J'ai trop hâte.
Los Pollos Hermanos.
Cette BA.
Elle est
cette
bien.
BA. Ils vont même jusqu'à sublimer la BA et raconter quelque chose dans une BA. Ah là là, c'est incroyable.
Je me questionne beaucoup du coup, vu que j'ai pas fini la série.
Oh putain, mais toi, tu dois te poser
trop de questions. Ouais.
Tu dois avoir des choses, Johanna. Tu dois te poser des questions et tu les poseras, il n'y a pas de problème. On est là pour te répondre. Moi, j'ai vu 8 fois la série, je peux te le dire.
C'est vrai. Ouais. Je suis valide, il l'a vu 8 fois.
Après, moi, le mec, il fait deux fois. Je suis colocataire avec mes deux mains et tout. En même temps, tu regardes Breaking Bad, mec.
Bah, avec ses deux mains, c'est sympa.
En tout cas, avant de se lancer dans le démontage de cette superbe BA, je vais faire appel à El Calculator, notre ordinateur qui a compté les plans de cette BA. Et même en mode hors-série, El Calculator ne prend pas de congé. Tout de suite, El Calculator.
C'est moi. Bonsoir les amis.
Bonsoir El Calculator.
Bonsoir El Calculator.
Dans El Camino, il y a 47 plans 2 minutes 5, soit 0,3 plans par seconde.
Wow.
Il s'agit du record du plus petit nombre de plans pour l'instant depuis le début de l'émission.
Wow.
Est-ce la patte Netflix?
Ah.
Ah, je sais pas.
Je suis pas spécialiste des BA de Netflix non plus, je t'avoue.
On n'en a pas fait du tout des bandes annonces de Netflix, donc je ne sais pas.
Mais c'est vrai que c'est très lent, ça prend son temps pour poser son ambiance.
Bah, comme la série.
Donc bonne remarque, El Calculator. Bah, merci.
Ouais, le mais ils peuvent le faire parce que voilà, les gens ont vu la série avant et ils savent.
Et tu es un fan de Breaking Bad, El Calculator ?
Oui, c'est moi qui ai écrit le film.
Oh, genre.
Car il paraît que les films Netflix sont écrits par des algorithmes. Ha ha ha.
Ah. Oh là là. Son humour se dégrade.
Ah ouais. C'est pas terrible son humour.
Je vais devoir le démonter à mon avis ce week-end et je vais lui remonter à la case humour là parce que comme BDR en 2 secondes. Écoute, El Calculator, éteins-toi, éteignez-le.
Si, por favor.
Ah.
Ok, en plus il parle. Oui. Parle pas bien.
Il apprend plusieurs langues.
Ok.
Alors la BA tout de suite. On ouvre la BA en parlant justement de ce qui ouvre la BA. Des flics, la nuit, des gyrophares, un homme fugitif qui se cache et un plan à la Shining sur une porte. Qui est-ce Johanna.
Jesse Pinkman.
Jesse Pinkman.
Moi j'ai 2 questions. Bon, visiblement il est vivant apparemment à la fin de la saison 5.
Absolument.
Mais est-ce qu'il a déjà pris aussi cher parce qu'on découvre son visage très 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 balafré quand même.
Il a déjà pris cher, oui.
Comment à ton avis il a pris cher?
Alors là, ben c'est compliqué parce qu'à la fin de la saison 4, il n'y a plus de cartel de la drogue, vu qu'ils se sont fait démonter la gueule. Ils se seraient battus avec Walter.
Alors l'indice, c'est la barbe.
C'est un indice, la barbe?
Ouais, c'est ah, que ça fait dire... des mois qu'il n'a pas pu se raser.
Ah, c'est qu'il est en fuite ou séquestré quelque part.
Voilà, séquestré.
Exactement.
C'est beau.
Séquestré par
des nazis.
Des nazis de la pire espèce, hein, ouais, on peut le dire.
La pire augure.
Oui. Et qui vont réussir en fait à le capturer pour te la faire grosse, à le capturer et le garder pour cuisiner parce que Walter White n'est plus en service.
N'est plus en service et du coup c'est Jesse qui devient le chimiste des nazis, mais il a été forcé en fait. Et du coup, il travaille pour eux et il a vraiment une vie de chien. Il est enchaîné dans une espèce de sous-sol avec une grille où il peut juste voir les étoiles et il se fait régulièrement tabasser parce qu'il essaye de s'enfuir et ça se passe mal.
Ça se passe très mal. Ils n'hésitent pas à utiliser les gros moyens pour lui rendre la vie dure. Et finalement, il s'enfuit. Donc voilà, et c'est ça qu'on a en fait.
Et il s'enfuit à la fin de la série.
Il s'enfuit à la fin de la série.
D'accord.
Parce que c'est le dernier acte que fait Walter White. Il vient le libérer.
Voilà. Il aurait pu l'abandonner. Et encore, on t'en dit pas trop, ça reste encore mystérieux, à mon avis, ce qu'on dit. Ouais. Il devait l'abandonner et puis il revient le sauver une dernière fois et le libère. Et il s'enfuit, il prend la route à toute berzingue au volant d'une bagnole et la liberté.
Il crie sa joie d'être libre.
C'est le dernier plan qu'on a sur lui de la série où il prend la route et il s'enfuit quoi. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, les flics arrivent pour intervenir sur la scène parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées là où il l'a libéré. Hein, ça c'est pas fini.
J'imagine.
Bien. Et ils croisent les flics et puis finalement ils se cassent quoi. Enfin, ils les croisent même pas. Mais
aussi, on voit la lumière, je crois, dans.
Ouais, ils arrivent dans l'autre sens quoi.
Exactement. Et du coup, la série démarre là.
C'est ce que ça a l'air de dire.
Le film a l'air de démarrer juste après, quoi.
C'est un peu ça. Et il vient sonner chez qui?
Chez El Flaco.
Chez Skinny Pete.
Skinny Pete.
El Flaco.
Son pote dealer, Skinny Pete.
Skinny Pete, Skinny Pete, Skinny Pete. Ouais, Skinny Pete, il vient sonner chez lui. Skinny Pete qu'on a revu un peu dans le dernier épisode, justement,
ouais.
Qui rend un service à Walter White. Ouais. Parce qu'il a encore des choses à faire avant de partir en beauté. Et donc, il revient sonner chez Skinny Pete. Et ensuite, après, dans la BA, petite séquence où il a l'air de se reposer, il y a Badger qui arrive.
Oui.
Alors, Badger, c'est son autre grand pote.
C'est ça qui est un peu teubé, mais qu'on aime
bien. C'est le teubé, oui.
Il a l'air choqué de son état, et il enlève son bonnet de choc.
Et il a l'air choqué de le voir aussi, je crois.
Absolument.
Parce qu'il était censé, en fait, il le pensait mort, à mon avis.
Perdu, oui.
Ouais. Ouais, c'est le gars qui a disparu depuis 5 mois et tout.
Voilà, le gars a disparu. Et il redébarque, et il fait un petit moment chez eux de récupération, on va dire ça comme ça. On le voit bouffer comme un fou.
Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se rase la tête. Ah là là, comme Walter White.
Comme un néo-nazi.
Et comme un néo-nazi.
Peut-être qu'il a été converti justement.
Et il retrouve son look en
syndrome
plus de
Stockholm,
la...
le mec il est à fond quoi.
Il retrouve son look post-Jane, où il s'était complètement rasé aussi.
Ouais, son dernier gros traumatisme quoi.
Ce qui a bouleversé Jesse. T'avais vu ça, Johanna ?
Bien sûr, Jessica Jones, tout ça. Ouais.
J'ai regardé tous les Jessica Jones pour comprendre quel était le lien, je n'ai toujours pas compris.
J'ai pas compris, ouais. Je vois pas, désolé.
Mais dis-le que t'es une détective, enfin. Qui me raconte la suite ?
Eh bien,
de la musique qui monte aussi, on n'a pas parlé de la musique.
Il a l'air de fomenter un plan. Difficile d'en savoir plus, mais il a l'air d'avoir quelqu'un en target, quoi. On dirait qu'il veut éliminer quelqu'un et qu'il se prépare à une vengeance.
Moi, j'ai une question, c'est qui, contre qui, du coup, il montrait ce plan ? Parce que
oui.
Si on résume bien, tous ses ennemis sont dead. Les nazis sont tous morts. Gus Fring, c'est du passé.
Est-ce qu'il se fait un nouvel ennemi ? Est-ce que...
Ou bien...
Est-ce qu'un des nazis aurait survécu ? Ou est-ce qu'un fantôme du passé qu'on croyait mort revient ?
Ah !
Après, le cartel, il existe toujours, de toute façon.
Oh, Lydia !
Elle est morte.
Mais non, on la voit pas mourir, en fait. Bah oui, mais bon, à ce
c'est
moment...
C'est qui, Lydia ?
Ah, voilà, une autre question de...
Ah oui, elle, c'est saison 5.
Lydia, en fait, c'est une meuf, en fait, qui va participer au gros trafic de Gus Fring, qui participait déjà, en fait, au trafic de Gus Fring. Et à la mort de Gus Fring, en fait, elle va se rallier avec Walter White, qui essaye de monter son truc tout seul, pour, cette fois-ci, là où l'empêchait, justement, Gus Fring d'agir comme ça à Lydia. Elle voulait ouvrir une branche internationale, en fait, faire partir la MET dans les pays de l'Est et tout. Mm. Et finalement, comme Gus Fring n'est plus là, bah, elle va s'engager avec Walter White, parce qu'elle a aussi, elle, des problèmes. Et donc, du coup, c'est une solution pour elle de régler les siens, en donnant d'autres à d'autres. C'est une meuf qui va participer en fait à toute la montée de Walter White dans la saison 5, qui va devenir une espèce de gros baron en fait.
D'accord.
Qu'il aurait tout monté tout seul, débarrassé de ses ennemis et tout. Il trouve un subterfuge pour continuer à cuisiner sans se faire repérer, maintenant qu'il n'y a plus de laboratoire
ah
et tout.
Ah ouais,
oui.
Il réussit à faire revenir Jesse en plus pendant un moment. Il s'allie avec les nazis. Tout se passe à ce moment-là en fait, les nazis qui leur permettent justement de cuisiner quoi. Et il y a notamment un gars qui aura une place plus importante, qui aura un vrai rôle, Todd, avec Jesse. Et il y a cette Lydia qui participe à tout ça. Et à la fin, en fait, Walter s'enfuit, part en beauté. Et entre-temps, il l'a re-rencontré et il l'aurait empoisonné en fait, avec la ricine.
Ah oui, avec la fameuse ricine.
La ricine. Et on voit juste un plan d'elle, justement, en train de suffoquer à la fin. Enfin, pas suffoquer, mais en mode avec des gros symptômes de forte grippe
oui, elle a un état grippal, oui.
Qui va clamser. Et Walter White la prévient. Donc peut-être qu'elle a eu le temps de s'en sortir. Vu qu'il la prévient par téléphone en mode ouais, t'as été empoisonné, t'es
j'y
pas
crois
bien,
pas,
tu vas crever.
J'y crois pas.
Je pense qu'elle est morte aussi.
Après, ceux qui sont vivants, c'est Skyler et le fils de Walter. Alors, est-ce que du coup, il ferait une vendetta personnelle en mode je vais tuer la famille de Walter ?
On a le plan, ouais. On a un plan comme ça dans la BA.
Et du coup, si tu parles de vendetta, ça veut dire qu'il n'est pas au courant à la fin de la série que Walter l'a sauvé, en fait. Bah alors, pourquoi il lui en voudrait ?
Il lui en veut parce que c'est en partie à cause de lui qu'il s'est fait enfermer par les nazis. Et puis Walter a fait quelque chose d'horrible et lui a dit quelque chose d'horrible notamment, qui je pense il ne lui pardonnera jamais, c'est qu'il lui a dit qu'il avait vu Jane mourir et qu'il n'était pas intervenu. Et donc là c'est la rupture entre les deux quoi.
D'accord. Ouais, mais après je vois mal quand même Jesse partir comme ça en vendetta contre la famille de Walter,
ouais,
qui finalement
clair.
N'a rien à voir avec cette histoire.
Ouais, ça ressemble pas trop au personnage.
J'essaye de trouver.
Genre le fils qui se venge.
En boitant.
You kill my uncle.
Ah, t'es méchant.
Bah non, mais c'est une... comment tu veux que je l'imite
Ah, c'est vrai, c'est vrai.
Il y a une scène où il prend un scarabée sur sa main. Qu'est-ce que ça vous évoque?
C'est la chance.
Ça me fait me dire qu'il a vraiment la dalle quand même.
Et je crois que je vais le bouffer, le scarabée et tout. Et puis après, il y a un plan en fait où on va comprendre. Enfin, il y a un plan, il y a plusieurs plans en fait. Il y en a beaucoup. On pourrait s'arrêter sur chaque plan, mais bon, on part pour des heures et des heures.
Ok, lui, je sais qui c'est. C'est le.
Ouais, faut qu'on explique. On a la bande-annonce qui tourne en boucle devant
pardon,
nous.
Pardon, oui, je suis sorti du podcast. C'est le pote de Hank.
Ah, le latino. Le chétanos, là.
Mais il est mort, Steve. Steve Gomez, il est mort.
Il est mort?
Mais oui.
Ah oui, dans la
fusillade. Ils se font niquer. Alors là, Johanna, oui. Elle dort
ah
rien
bah,
comprendre.
Moi, si, je j'imagine.
Parce qu'en fait, on a une mauvaise nouvelle à t'annoncer.
Hank est mort.
Hank se fait tuer.
Alors je
sévère.
M'en bats les couilles de Hank,
ah
si
ouais,
tu savais.
Ah ouais, non, mais attends, parlons-en un peu de Hank.
Il cool. est gentil, hein, mais bon,
est-ce
voilà.
Que, est-ce qu'on n'a pas là, d'ailleurs, le meilleur épisode de la série qui s'appelle Ozymandias, où Hank se fait tuer sous les yeux de Walter et qui... Horrible cet épisode, ouais. Putain, mais dans
tendu
le désert,
du string,
là...
C'est un truc de dingue. Tendu du string, cette scène et tout, où... par un scénario tellement fou que ce serait trop long à t'expliquer, Johanna, mais ils finissent par se retrouver au même endroit dans le désert, les nazis, Walter White et Hank qui ouais. est là pour l'arrêter parce qu'il a fini par découvrir tout le poteau rose et tout. Et donc il sait que qui est Walter White vraiment et tout. C'est génial, ça aussi, c'est montré super bien dans la série. J'essaie de t'en laisser un peu. Et il y a cette scène ouais, où il y a Hank qui se fait descendre au final parce que
par les nazis
qui finissent par intervenir par le coup du sort de tous les éléments et des étoiles réunies.
Mais ça te fait un truc parce que Hank, je le trouve sympathique, mais mine de rien, tu vois.
Oui,
c'est un
sûr.
Peu un sale con, tu vois. Genre, l'américain moyen, il se fait des bières dans son garage, là, un peu réac et tout, tu vois. Mais il est sympathique en fait.
Gros beauf.
Ouais, c'est un gros beauf et tout, mais tu t'attaches à lui en fait. Tu deviens un
bah,
peu.
Surtout quand il y a la bascule en fait.
Bah
surtout
oui,
quand
on,
la bascule,
on s'attache à lui, ouais, mais c'est pas. C'est pas le personnage que t'as forcément envie de suivre le plus dans la série, je trouve. Je suis plus attaché à Jesse, par exemple, qu'à Hank.
Ouais, c'est clair.
Bah, c'est les antagonistes.
Ça reste un opposant de Walt, hein, ouais, c'est
ouais.
clair.
C'est un personnage vraiment secondaire. Enfin, c'est pas vraiment secondaire, mais secondaire en tous les cas, quoi.
Il a une importance folle, quand même, parce que c'est lui qui relance parfois des trucs en étant si proche de découvrir qui est Walter White, la scène avec Ouya.
Ouais, bien sûr, mais dans l'histoire tourne pas autour de lui, quoi. Ça, ouais. C'est ça que
mais après,
dire.
Walter, il a un peu. Il le cherche un peu, c'est-à-dire que par arrogance. Je me souviens qu'il y a plein de moments où l'enquête elle pourrait être terminée et c'est lui qui relance Hank en disant « Non, non, t'as pas trouvé le vrai chimiste. Le vrai, c'est un vrai génie. Tu l'as pas encore trouvé.
Ouais. » Il est très orgueilleux. Ouais.
Génial cet épisode.
Péché du Super Saiyan d'ailleurs.
Est-ce que vous avez des épisodes un peu phares que vous gardez en cœur de la série plus
moi,
que d'autres
c'est... Ouais, moi, c'est tout ce réalisé par Rian Johnson. Ils sont incroyables, je trouve. Il y a la mouche. Donc il faut expliquer cet épisode, ils n'avaient plus de budget, c'est vrai, ils n'avaient plus de budget pour faire un épisode de Breaking Bad et du coup ils ont fait ce qui s'appelle un épisode bouteille, ça arrive parfois dans les séries, c'est-à-dire que c'est un épisode qui doit se dérouler dans un seul décor pour des raisons budgétaires. Et du coup il a dit bon ben on va enfermer Jesse et Walter dans le laboratoire et en fait tout l'épisode c'est eux qui chassent une mouche, donc ça paraît complètement dérisoire et en fait c'est un prétexte pour montrer la folie de Walter White puisqu'il pense que la mouche a contaminé le laboratoire et qu'il faut absolument l'éliminer sinon on peut pas continuer la production de drogue. Et c'est un épisode incroyable où ils sont au bord de se révéler des choses terribles et ils ne le font pas. Enfin c'est voilà, il y a celui-là qui est réalisé par Rian Johnson et un autre qu'il a réalisé c'est donc Ozymandias, l'épisode où Hank meurt et qui est au niveau mise en scène vraiment exceptionnel. Et après aussi je trouve tous les épisodes faits par Michelle MacLaren qui est une réalisatrice qui a été beaucoup révélée par Breaking Bad, tous ces épisodes sont toujours géniaux.
T'as lesquels dans...
Elle en a fait beaucoup, je sais plus, mais à chaque fois que c'est elle, tu sais qu'il va se passer des trucs de ouf, quoi.
Mais c'est pas elle, les plans, justement, subjectifs sur les objets, là.
Je sais pas qui a lancé ça en premier, mais c'est dès la saison 1, hein, si je me rappelle bien.
Moi, je connais pas assez par épisode pour savoir, mais moi, il y a des scènes qui me restent. T'as toutes les intros de la saison 3, déjà, dans la piscine, c'est la saison 3 ?
C'est 2.
Ah, c'est 2
ouais. Avec l'avion à la fin, ouais. C'est
tout,
le 2.
Ouais,
ouais,
tous ces plans-là, je sais pas, ils étaient vraiment entêtants, quoi. Je sais pas, ça m'est resté.
Les flash-forward, tu veux dire ?
Ouais.
Qu'on a à chaque début d'épisode.
Ouais, qui sont en noir et blanc, là.
D'ailleurs, tu sais que les titres de ces épisodes, mis bout à bout,
forment une phrase.
Forment une phrase qui est en fait ce qui se passe dans l'épisode le dernier
c'est,
épisode.
C'est ouf.
C'est le nom de l'avion et genre ça
qui
va,
s'écrase au-dessus d'Albuquerque.
Avion qui s'écrase. Avion machin au-dessus d'Albuquerque, les épisodes.
C'est ouf. Mais c'est vrai que ces plans, ils sont entêtants. Et puis il y a une scène qui me reste, moi, c'est la. Attends, je sais pas, dans quelle saison c'est, j'ai peur de le dire du coup.
Vas-y.
La mort de Gus, quoi.
Saison
c'est
4.
Ouais.
Ah, saison 4,
je suis d'accord.
Ouais. Mais la scène de la mort de Gus, elle est dingue, quoi.
Elle est ouf, vas-y, raconte-la.
Je crois que l'épisode s'appelle Matt. C'est ça, échec l'épisode d'avant.
Échec et maths.
Ouais. Ouais. Bah, attends, après, tu vois, je vais pas avoir des souvenirs hyper précis de comment ça se déroule et pourquoi et tout. Mais t'as Walter qui a piégé le fauteuil roulant là du grand-père
Hector,
de Tuco.
Hector Salamanca.
L'angle de Tuco. Hector Salamanca.
Ting, 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 ting,
celui qui fait ting, ting avec sa cloche et tout. Et t'as souvent Gus qui vient le voir pour un peu le torturer psychologiquement, quoi. En gros. T'es un connard, je t'ai bien niqué et tout. Et Walter est au courant de ça et il veut piéger Gus par ce biais-là, donc en mettant la bombe pendant que le gars est, pendant que justement
en fabriquant une bombe, ouais, il y a tout une bombe, ouais. Une bombe, ouais.
En mettant la bombe pendant que Salamanca il est réveillé en plus et qu'il le voit et qu'il est en train de faire ding ding comme un ouf, tu vois. Et enfin c'est trop stylé.
Ouais,
quoi.
Il embarque Hector Salamanca du coup dans son plan de vengeance, ouais, et il propose en fait le sacrifice de bombe humaine. Ouais. Il s'en sert comme bombe humaine.
La bombe humaine.
Pour éclater Fring et là boum explosion.
Explosion. Et puis il marche après, je crois. Il me semble que ça explose.
Il sort de la chambre et il réajuste sa cravate et,
ça, dingue, ouais.
Et il meurt.
Parce qu'il réajuste sa cravate et il meurt, c'est
ouf. Gus Fring, c'est un personnage aussi complètement fou. Dire. D'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être encore des employés de Fring qui justement sont reliés à El Camino là dans la bande-annonce ? Parce que on voit aussi qu'il y a quand même un grand moment où il a l'air d'investir une espèce d'entrepôt et tout. Et il a l'air d'avoir bien compris les enseignements de Walter White, qui on le rappelle, qui est un grand génie. Ancien prix Nobel, en plus, je crois que c'est ça qu'ils disent dans la série.
De la paix.
Il s'est fait voler son prix Nobel.
Il aurait pu être prix Nobel, oui.
Et en fait, il s'est fait voler son invention par un gars qui était supposé être son meilleur pote et son collègue de l'époque.
Ouais. Exactement.
Qui s'appelle Gretchen et...
Elliot Schwartz. Parce que c'est Schwartz et White.
Forme
et
la société Grey.
Ça fait noir et blanc.
Grey Matters.
Et ça, c'est important dans le dernier épisode de la série.
Bah peut-être que, justement, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas les relier, eux ? En fait, est-ce qu'ils n'auraient pas. On rappelle un peu, Walter White, en fait, les a une dernière fois visités avant de partir en beauté. Il est parti les voir chez eux, d'ailleurs, dans une scène qui est complètement dingue.
Avec un système de.
De sniper, enfin, très évolué.
De sniper très évolué.
Dernier épisode de la saison, où il rend visite à Gretchen et Elliot. Tu sais, ses grands amis, là, tu t'en souviens d'eux ?
Oui.
Ses grands amis millionnaires qui ont super bien réussi en lançant une boîte scientifique.
Et qui l'ont bien niqué.
Parce qu'ils ont, pris son idée, en fait. Ils l'ont payé un peu et puis ils l'ont mis de côté.
Il va chez eux pour être sûr que l'argent qu'il a accumulé sera transmis à ses enfants. Et donc, il leur demande, après sa mort, parce qu'il est sûr de mourir, parce qu'il faut aussi expliquer que le cancer est revenu, il me semble. Si je dis pas de conneries.
Oui, il revient, je crois. Ouais.
Et donc, il est sûr de mourir. Et il dit à Gretchen et Elliot, voilà, j'ai accumulé cet argent. Je vous demande un seul truc, c'est de le donner à ma famille après ma mort. Et si vous le faites pas, vous allez vous faire sniper la gueule. Et là, il y a deux points rouges sur la tête et tout. Voilà. Et donc,
ces deux
personnages sont importants au final, alors qu'ils avaient un peu disparu de la série.
Plus si je me fais des films là tout de suite, je pense qu'ils ont fini par vendre la mèche en apprenant sa mort et un peu l'enquête qu'il y a eu autour. Et que ça pourrait revenir du coup sur la gueule de Jesse Pinkman, forcément, parce que.
Après, c'est une piste intéressante, mais il a l'air quand même de s'attaquer à des gens qui sont dans des hangars, qui sont organisés, qui ont des hommes. Enfin, il y a de la sécurité et tout, donc on dirait qu'il s'attaque à un cartel ou à un groupe.
Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même. Peut-être même les cartels qui étaient liés avec Fring, mais qui ne s'entendaient pas trop là. Tu sais, ils sont toujours là, ceux-là, en fait. On ne sait pas comment ils vont réagir.
Ouais,
ils ont
dû se réorganiser.
Avec la chute du marché, là, et tout. Enfin, ça se trouve.
Ouais, mais l'implication de Pinkman dans ça, genre, il faut que je débarrasse toute la vermine.
Bah, peut-être
après, n'oublions pas que Pinkman est, du coup, l'héritier du chimiste de génie. Donc, il est supposé connaître la recette. Il est supposé connaître la recette de la mettre la plus pure.
C'est ça, ils le veulent peut-être pour cuisiner, comme les nazis le voulaient pour ça.
Connaîtra-t-il le même sort que le colonel KFC ? Avec sa recette des 7 épices.
On y pense.
On a des plans voilà, où il est confronté aux forces de l'ordre directement avec des inspecteurs, on dirait. Moi, c'est ce que ça me donne comme impression.
Ouais, on dirait qu'il y a des flics aussi, qu'il est confronté à des flics.
Bah, de toute façon, il le recherche puisqu'il est impliqué dans une énorme tuerie. Donc, ouais.
D'ailleurs, on voit un plan avec une télévision avec écrit Wanted avec Jesse et son vrai nom qui n'est pas Pinkman.
Mais moi, je pense qu'en fait, voilà, je suis encore dans ma phase où je me fais des films. Je pense qu'en fait, il y a une grosse ellipse, je pense, dans le film où tu vas trouver d'abord Jesse Pinkman tout de suite. Le film pourrait commencer comme ça. Où il est en fuite, il run like a fugitive, il s'en va, il fuit, et il se retrouve chez Skinny Pete, il reprend du poil de la bête, et ensuite, il y a un gros moment où ça va être genre 1 an plus tard, 2 ans plus tard, pour peut-être aussi justifier son changement physique, peut-être, parce qu'il a quand même bien changé, hein, comparé à la dernière, à 2013, c'était il y a déjà du coup 6 ans, quoi, la série, putain. Et Et donc il y a peut-être une grosse ellipse, c'est justement ouais, où peut-être les cartels seraient réorganisés et qu'ils seraient recherchés et essaieraient de s'en sortir.
Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a un truc qui. T'as l'impression que dans la BA, il a un truc à faire.
C'est ça.
T'as l'impression qu'il
a une mission.
Qu'il a une mission, c'est pas genre il va réagir. J'ai vraiment l'impression qu'il a un truc à faire. Parce que même la toute fin de la BA, c'est. Enfin, moi je crois que celui qui parle, c'est le fameux gars justement qui t'emmène pour faire une nouvelle vie en fait.
Ah.
Tu vois. C'est celui qui avait pris Saul Goodman.
Qui... Le vendeur d'aspirateurs.
Le vendeur d'aspirateurs.
Celui qui efface ton identité.
Ça se trouve, la fin, c'est juste c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Emmène-moi, quoi, tu vois.
Eh, bien vu, putain, pas con. Il est pas mort cet acteur ?
Bah, je crois qu'on le voit pas mourir, ce gars-là. On le voit
non, mais il est pas mort parce qu'il. Non, mais en vrai. Parce qu'il est...
je m'en fous de l'acteur, je te parle du perso. Hein.
Ah oui, mais moi, ça me paraît fort possible, ça. Que ce soit le moment où.
Bien vu, bien vu.
Je sais pas, il a l'air déterminé et tout, tu vois, tout le long, tu vois, donc.
On fait une petite pause dans l'émission. Nous sommes quelques jours après l'enregistrement de cet épisode hors série. Et il s'avère qu'au moment où on se posait la question si Robert Forster était encore de ce monde, il nous quittait ce jour-là, coup du sort, le jour de la sortie d'El Camino. Alors nous lui rendons hommage avec ce petit message. On se souviendra de lui dans Jackie Brown chez Tarantino, dans Mulholland Drive chez David Lynch. Et on lui fait un gros big up. On reprend l'émission. You're ready? Yeah. Ça, c'est la fin de la bande-annonce.
Ah, mais ok.
T'as des questions sur la BA, Johanna ? Je pense qu'on en a bien fait le tour.
Ouais, je pense que vous avez bien fait le tour. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de, tout en sachant la fin, de me dire comment ils vont en arriver là. Donc, de toute façon, je vais me la faire, ma saison 5.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a intérêt, surtout que c'est la meilleure.
Non, c'est pas parce qu'on t'a spoilé aujourd'hui que tu dois t'en passer. Je t'invite, je t'oblige même à regarder la fin de la saison 5, qui est une série en apothéose. C'est une façon de finir les séries. Comme ça, c'est rarement vu, j'ai envie de dire.
Et c'est à signaler, parce qu'il y a tellement de séries qui ont foiré leur fin.
Hein, Game of Thrones ?
T'as une liste ?
Non. T'as cru que j'allais sortir une liste. Les séries qui ont foiré leur fin. Alors,
ouais, excusez-moi, je sors...
L'encyclopédie, un tableau Excel,
justement, vu qu'on parle d'autres séries, je sors un peu du truc, mais est-ce que vous arriveriez à faire un top 5 de vos séries préférées ?
Je peux faire déjà un top 5 juste comme ça des pires fins. Je pense à Dexter, je pense à Game of Thrones, je pense à
Sons of Anarchy. Sons of Anarchy, c'est une fin horrible. Après, je sais pas si vous avez regardé, mais la fin
non,
de Sons of Anarchy.
Mais horrible, genre raté ou...
Ah, c'est totalement raté. Ils sont partis en steak.
Et Lost, et voilà quoi.
On ne parle pas de la fin de Lost, s'il vous plaît.
Un top 5. Ah, t'as pas vu, t'as pas...
C'est dur un top 5 en vrai.
On peut pas spoiler Lost.
Bah écoute, moi je vais sortir mon compte Sens Critique et j'ai un top 10 séries. Donc,
ah ouais.
Donc je vais te le dire, mon top 5. C'est donc Breaking Bad en 1, Black Mirror en 2, The OA en 3, True Detective en 4 et Lost en 5.
Ah ouais,
à égalité avec South Park.
T'es assez récent quand
même. T'as pas fini Lost et tu l'as déjà mis dans ton classement?
Bah parce que j'adore.
Ouais, bah fini Lost.
Peut-être que ça bougera quand j'aurai fini.
Ouais, mais
fini.
Après, tu vois, si la fin l'est ratée, ça peut pas justifier le fait que ça soit pas une grande série,
oui,
je pense.
Ouais. Bah,
c'est
même...
tout ce que j'aime. Donc,
parce que pour moi, Game of Thrones est redescendu de 20 points.
Ouais,
dans le classement.
Game of Thrones est en 7ème position dans mon top.
Ah, quand même,
il est... Moi, je trouve que dans l'ensemble, ça reste une bonne série. C'est juste que la fin, c'est de la merde, quoi. Mais après, voilà, ça a un peu changé le truc.
Bah, c'est maltraité, quoi.
Moi, top 5, je sais pas. Franchement, c'est dur hein, de faire un classement de 5 séries.
C'est très dur.
En vrai. Parce qu'il y a tellement de bonnes séries. Bah, il y a eu True Detective, c'était dingue. En tout cas, surtout la saison 1. Quoi. La saison 3, en plus, là, qui est sortie, elle était ouf aussi.
Ouais.
T'as Breaking Bad, bien sûr. Qu'est-ce que t'as eu? Bah, t'as eu
t'as Twin Peaks, non?
T'étais
pas un gros fan de Twin Peaks.
Twin Peaks, c'est trop bien. Après, t'as quoi? T'as... T'en as tellement, c'est fou.
Peppa Pig. Franchement, c'est incroyable. Saison 4.
Peppa
la saison 4
Pig.
Où son père, en fait, c'est sa mère.
Ah, bah si, mais un truc, c'est qu'il y a Peaky Blinders aussi. Ah, ça, c'est fou.
Putain, j'ai pas regardé.
Ah, tu m'en parlais tout à l'heure. Ouais.
Ça, c'est vraiment une grosse série, ça. C'est une grande série, je trouve. C'est pas, je préfère pas Peaky Blinders à Breaking Bad, mais franchement, en termes d'affection, ils sont coude à coude. Hein.
Ouais, oh. Non, question dure, top 5 en
toi,
plus.
Waouh, ouais.
Wow, moi, j'ai envie de te dire. Bah, déjà, j'ai au moins le premier. Hein,
ouais.
Je pense qu'en plus ça doit être sûrement la meilleure
série,
oui, du monde entier et
confondu,
de tous les,
ouais,
univers parallèles, les microcosmes, magnifitude, ce qui veut rien dire, du monde entier et confondu. Je pense que Breaking Bad est directement en première position, mais j'ai envie de dire que sur le même côté, dans un autre genre, je mets aussi Friends.
Ouais,
parce
c'est ce que j'allais
voilà,
te dire. Oui, Friends est dans mon top 5.
Friends, j'ai le coffret, j'ai vu tout 1000 fois. Tu tombes dessus à la télé, tu remets ton agenda en compte direct.
Ouais, t'as remarqué que ce qui est dingue dans Friends, c'est que les sujets abordés dans Friends sont terriblement actuels, alors que ça fait 10 ans que c'est fini. Quoi.
Mais parce que le monde.
C'est clair, l'épisode sur Instagram, il est incroyable.
Ouais, c'est...
Tais-toi, Clément.
Life is a flight, sucker. Tu vois, parce qu'il y a trop de détectives aussi, qui est dedans, parce qu'il a bien retourné. Hein. C'était en plus une série one shot, enfin, c'est des saisons one shot, donc c'est.
Avec Fukunaga,
c'est ouais. trois films à chaque fois de 8 heures différents.
C'est ça, on dit d'anthologie, c'est ça, dans le langage de la série.
Alors, oui, mais les épisodes sont pas différents à chaque
fois. Ah oui, d'accord.
Black Mirror, une série d'anthologie, par exemple.
D'accord.
Black Mirror aussi pourrait y être. Après, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de séries The Office. C'est dur de faire un top 5 là.
Ouais, c'est vrai, c'est chiant.
Vous êtes très récent quand
peut-être,
même.
Peut-être en par genre, alors, s'il y a Game of Thrones aussi dedans, même si j'ai trouvé la fin pété.
C'est dur de classer.
Et puis Magnum, bien sûr.
Ah non, mais Magnum, c'est...
Et toi, Jojo, ce serait quoi ton top?
Moi, je pense que je mettrais Breaking Bad, même si je ne l'ai pas fini. Comme je disais, pour moi, c'est une leçon de tout, de scénario, de jeu d'acteur, de réalisation, de showrunning. The Wire, que j'ai commencé. Donc même si je suis...
Ah, moi j'ai pas vu, c'est vraiment bien.
Même si je suis qu'au début de la saison 1, ça prend énormément son temps, ce qui peut faire flipper. Mais en fait, je sens que je suis en train de regarder un gros truc. Et en termes d'évolution de personnage aussi, je sens que ça va être fat. Et c'est juste une fresque de la ville de Baltimore qui est incroyable. Et ça, tu le sens dès le début, quoi. Et voilà, le sujet... enfin, il y a de bonnes idées, je pense, qui ont été reprises dans énormément de séries qui existent maintenant.
Ça a eu beaucoup d'influence, ouais.
Ouais. Notamment le fait qu'ils créent une brigade de rebut de toutes les brigades qui existent pour démanteler un réseau de drogue. Ouais. Enfin bref, franchement, je vous invite à le
ça
regarder.
Ça reste une référence aussi dans la série.
Ah oui.
En
très
référence,
souvent cité en meilleure série aussi.
En référence, tu as les Sopranos aussi.
Mm. Ouais.
Tu as beaucoup de séries HBO au début, genre les Sopranos, c'était HBO.
Oui, ouais, The Wire aussi.
Les Sopranos, The Wire, ouais. Six Feet Under. Aussi. T'as d'autres séries aussi qui correspondent à l'anti-héros. T'as Dexter aussi qui avait bien marché.
C'est ça.
Mais pareil,
les 3-4 premières saisons sont top. Après,
mon top, je mets aussi Friends comme toi parce que voilà, c'est incroyable. Pour moi, c'est une photographie de la société pendant 10 ans, voire plus, parce qu'il y a eu des pauses quand même entre les saisons. Je mettrais True Detective saison 1 et un truc que vous n'avez pas mis, mais Code Quantum, qui est une très ancienne série que je trouve absolument géniale. Qui m'a donné envie d'écrire, tout simplement, qui m'a donné envie de regarder des films et des séries.
Et tu peux nous le pitcher ?
Ça parle d'un physicien quantique qui tente une expérience de voyage dans le temps, qui se rate complètement et qui se retrouve du coup à voyager à l'infini dans le temps, dans le corps de Jean.
Ah, c'est un biopic sur Rocco Siffredi.
Il voyage dans les corps.
Et en fait, il doit réaliser quelque chose d'important dans leur vie pour pouvoir partir, se transmuter, ils disent dans la série, dans un autre corps.
D'accord. Et chaque épisode, il atterrit dans une époque.
C'est ça. Et en fait, grâce à... C'est un mec qui est un crack aussi, qui est un génie d'histoire et de science. Et du coup, à chaque fois, il arrive à se repérer historiquement là où il est, à repérer quelle période de l'histoire, ce qu'il doit faire. Et il est suivi par... il appelle ça son ange gardien. Mais c'est quelqu'un qui participe à l'expérience, qui s'appelle Al, et qui tient l'ordinateur qui est dans le présent, et qui l'aide un peu en lui donnant des indices sur l'époque dans laquelle il est.
C'est un peu le parcours du karma, un peu. Il doit rendre des services pour... c'est un peu comme un
jeu
vidéo.
Pour retrouver son corps de décembre.
Pour monter et à chaque fois récupérer son
truc.
Mais
ce qui est ouf dans la série, c'est qu'on ne sait pas, jusqu'à la fin, on ne sait pas s'il va réussir à...
C'est un peu comme Ulysse
31, revenir
quoi.
Au fait, parce que à un moment il est dans le corps de John Lennon, il se retrouve dans le corps de Lee Harvey Oswald au moment où il va tuer Kennedy. Ensuite il se retrouve transmuté dans un des gardes du corps de Kennedy et en fait il passe tout son temps à se demander c'est quoi le sens de ce qui lui arrive. Ça parle de la guerre du Vietnam, des noirs pendant les périodes où c'était pas cool pour eux aux États-Unis. Enfin c'est assez génial comme série. Et des fois il est même dans le corps d'animaux. Il y a tout un épisode où il est dans le corps d'un singe de laboratoire. Et du coup, les sujets qui sont abordés sont assez en avance aussi, je trouve, sur leur époque.
Code Quantum.
Ok.
Yes, top 1. Dans le top 1, tu l'as
il
mis...
Il est dans le top 5, en
dans
tout cas.
Top 5,
j'ai pas d'ordre, mais en tout cas, il y est.
Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur. Je pense aussi à moi, Prison Break, Malcolm, The Leftovers, qui est complètement dingue aussi.
J'ai pas fini. Ouais.
C'est vrai que Sharp Objects, c'est ouf.
Sharp Objects, c'est incroyable. Mais alors, c'est une mini-série, donc il y a 8 épisodes et c'est terminé, quoi. Mais regardez le meilleur twist du... C'est génial.
Je crois qu'il y a une série à regarder aussi, c'est Spaced. C'est la série de Edgar Wright. qu'il a faite avant de faire des films avec la bande, avec Simon Pegg et Nick Frost. Et cette série, elle est dingue. C'est l'histoire en Angleterre d'un mec et d'une meuf qui vont se faire passer pour un couple, pour louer un appart qui est normalement réservé qu'au couple, et qui vont vivre leur vie chacun de leur côté, dans leur quotidien, et ça barre dans des trucs totalement débiles. Genre le pote de Simon Pegg, là, c'est Nick Frost, et c'est un ancien militaire qui est obsédé par la guerre et tout. Enfin, c'est génial. C'est que des thématiques geeks et des situations totalement absurdes. Franchement, faut regarder.
Spaced. Génial. Et en parlant de geek et tout ça, je pense à The IT Crowd.
IT Crowd, c'est ouf.
Ah ouais, c'est
chez, les Anglais, les Anglais sont bons. En tout cas, là, on va pas tarder à se voir le film, je pense.
Ah oui, allons-y.
On va se le mettre. Je voudrais juste finir en vous posant la question. Est-ce que vous avez envie de voir ce film et surtout, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de faire un film Breaking Bad pour conclure le
Alors,
truc.
Je pense que ça aurait été n'importe quelle autre série. Ils auraient dit, on fait un film. Tout le monde aurait soufflé en disant, fait chier.
Ce qui vient de se produire d'ailleurs avec Downton Abbey.
Ouais.
Qui sort au cinéma un film alors que la série, c'est la conclusion de la série qui est D'accord. un film qui sort au cinéma. Ouais, juste
je pense que juste le fait que c'est Breaking Bad, ça a créé une hype de malade, quoi, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et moi, même sans avoir fini la série, je suis là, quoi.
Ça te fait confiance ? T'as confiance ? T'as pas de peur concernant.
À la limite, ma seule peur, ça pourrait être que c'est plus la même prod vu que c'est Netflix. Mais vu que c'est le même, c'est les mêmes auteurs derrière.
C'est Vince Gilligan qui réalise le film et c'est le créateur de la série.
Voilà, donc je suis complètement en confiance.
Ouais, j'avais conspué moi au début l'idée quand il l'avait annoncé et j'ai retrouvé confiance au fur et à mesure grâce notamment au nom de Vince Gilligan qui était encore là.
Ouais.
Et donc ça rassure parce que Better Call Saul quand ils l'ont lancé aussi, on s'attendait peut-être au pire et au final ça s'en sort plutôt bien quand même.
On a dit que Better Call Saul, on a expliqué ce que c'est.
Better Call Saul, on peut le dire tout de suite, ouais, Better Call Saul, c'est le spin-off en fait, de Breaking Bad et qui va raconter les histoires de Saul Goodman, hein, l'avocat un peu véreux et rigolo dans la série, et qui va raconter comment il est devenu, lui, en fait, associé
l'avocat du crime, des criminels.
C'est même comment il est devenu Saul Goodman, parce qu'il ne s'appelle pas comme ça au début.
Oui, c'est ça. Ouais. Il s'appelle, je me souviens.
McGill, mais j'ai oublié son prénom.
McGill.
Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé quelques saisons de Breaking Bad et j'ai commencé Better Call Saul parce que mon colocataire Clément le regardait en même temps. Et du coup, j'ai eu un plaisir, mais un kiff absolu quand j'ai découvert Saul Goodman dans Breaking Bad, l'épisode qui s'appelle Better Call Saul d'ailleurs. Je pense que ça m'a donné un kiff supplémentaire de voir ce personnage dans Breaking Bad et de le découvrir en sachant qu'il allait devenir récurrent.
Oui, mais il faut expliquer que Better Call Saul se passe avant Breaking Bad.
Ouais.
Donc ça peut être marrant aussi de le visionner, maintenant que la série est sortie, de le visionner dans cet ordre-là aussi.
De le faire dans l'ordre chronologique, commencer par Better Call Saul et terminer par El Camino, du coup.
Cool. Ouais,
ben on part pour. On peut faire. On arrête tout, puis on fait un gros marathon là.
on se revoit dans 3 semaines, les gars.
Saison 1 Better Call Saul, ensuite on se fait les 5 saisons de Breaking Bad et on termine par El Camino. Et on se retrouve dans 2 semaines.
En 2020. Allez, salut.
Et toi Clément, tu penses que c'est une bonne idée de faire le film
Bah écoute,
le
comme
Camino
toi, au départ j'ai mal réagi quand j'ai vu qu'il faisait un film Breaking Bad. Je me disais, oulala, ça sent l'exploitation du filon. Surtout qu'ils avaient sorti un jeu sur portable qui est pas très bien, qui est un jeu officiel Breaking Bad mais qui est pas ouf. Et je m'étais dit, oulala, attention, ils sont en train de faire n'importe quoi avec la franchise. Et,
genre tu fais de la cuisine et tout. Mais la drogue, mais 300 centilitres de drogue.
Mais de colorant bleu, tu as gagné.
Maintenant, livre-le au cartel mexicain.
Mais après, c'est vrai qu'en voyant les premières images, en fait, je me suis dit, bon, putain, de quoi il va parler le film Breaking Bad, quoi. Bon, il n'y a plus rien à dire. Et quand on a vu les premières images, la fuite de Jesse et tout, j'ai fait, ok, ouais, ça, c'est un bon angle. Après, bah ouais, j'ai très hâte de le voir, quoi. Après, un peu déçu qu'on le voit pas en salle. Ça aurait été un kiff quand même d'aller en salle voir un film Breaking Bad. Putain, ça aurait été kiff.
Clairement, je sais pas s'il y a des séances sur Paris, je crois pas, non, ou même sur la France. Mais il y en a aux États-Unis. Kevin, toi, est-ce que tu as envie de le voir ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ?
Moi, j'ai envie de le voir. Après, est-ce que c'est une bonne idée ? C'est une autre question. Je sais pas trop. Moi, je me méfie toujours quand tu as une œuvre que je considère comme étant finie à une suite comme ça inopinée, que ce soit d'ailleurs en série ou en film. Donc, moi, j'ai un peu cette méfiance-là d'un côté. Je me dis, est-ce que c'est pas en trop ? Est-ce qu'ils vont pas un peu gâcher la fin que moi je trouve magistrale en fait ? Est-ce que c'est pas un peu rajouté ?
Hashtag Star Wars.
Hashtag beaucoup de choses.
Hashtag pas d'accord.
Hashtag on en reparlera.
Bon, en décembre, il y aura débat.
Ouais, j'avoue.
Et je pense que ce sera la fin du podcast.
C'est clair.
Ça a été Terrence Malick.
Donc on parle pas de...
C'était un bon podcast. Et vas-y, Kevin.
Et en même temps, j'ai très envie de le voir parce que la BA te montre un truc qui me plaît beaucoup. Tu sens que là, ils se sont dit, on fait du ciné. Je trouve que ça se sent dans la mise en scène qui ressemble à celle des épisodes en général. Mais là, tu sens qu'ils ont dit, là, on fait du vrai cinéma, on fait de la vraie lumière, on fait des vrais plans.
Il y a l'air d'avoir des plans rappel quand même à la série. Je pense au timelapse, dans la bande-annonce.
Il y a l'air d'avoir une vraie recherche en mode, on va vous faire un truc qu'on n'avait jamais fait avant avec Breaking Bad, quoi. Et du coup, ça me rend super curieux. Et si c'est réussi, ça peut être dingue.
Ok, waouh. C'est vrai que cette BA, elle transporte beaucoup de trucs. Pour donner mon avis, moi, je vais avoir du mal à être très objectif parce que je tiens quand même à le rappeler pour ceux qui n'auraient pas compris.
C'est
que
quand même la meilleure série.
Bad, on
c'est
parle,
quand même
oui, d'une
la
série
meilleure
qui est,
série,
je crois, dans l'univers
du
ouais.
monde.
De tous les univers.
Et de tous les univers, dimensions et autres cuisines américaines parallèles confondues. Ne me parlez pas de zombies et de gars avec un chapeau
génial,
de cow-boy, des trucs comme ça.
D'une batte de baseball.
Et des épisodes qui durent le temps d'une saison alors qu'à la fin t'as rien compris.
Dans
ne parlez
forêt,
pas
là.
De ce genre de trucs. Moi je vous parle là d'une série qui a tout cassé.
T'as hâte alors de le voir ce film.
Donc j'ai très hâte de voir le film. Voilà, je vais forcément beaucoup de peur au départ, mais la bande-annonce. Je me rappelle, on l'a vu avec Clément pour raconter un peu la petite histoire.
Ouais, on a sauté partout.
Vous êtes colocataire aussi ?
Alors, des fois.
Seulement le samedi. Voilà, garde partagée. Hein. Donc, non, et c'est Clément qui m'a averti que la BA est tombée et tout. Et j'étais en montage d'épisode et il vient me voir et il me fait « Ah, il faut que tu regardes la BA et tout. » Donc je m'épose, je regarde la BA et dinguerie quoi. On était fous.
On a sauté partout.
On était fous. On
en
a
plus,
cassé des choses.
Tu me l'as envoyé et moi je te croyais pas parce que moi j'avais vu juste deux jours avant, tu sais, l'espèce de teaser, c'était une scène qui durait une minute.
Et là c'est une vraie BA quoi.
Et là il me fait la BA, je fais, ouais, c'est ton truc pourri là, j'ai déjà vu, c'est la scène, enfin c'est la vieille scène qui dure une minute et on voit rien, tu vois. Et après je l'ai maté dans mon lit, je me rappelle comme ça. Franchement,
j'ai commencé à me toucher.
Le mec il a pogoté dans son lit.
J'ai sorti la petite feuille de sop.
J'ai commencé à attraper ma. Enfin.
Après ta colocataire est arrivée, elle a fait, wow, tu fais quoi là?
Je l'ai montré et puis après bah.
Et ainsi soit-il, voilà, dans 9 mois viendra.
Non, on est juste colocataire.
Petit Thibaut.
Thibaut. Thibaut White. Thibaut Pinkman. Thibaut Salamanca.
Bon, allez, on met le film.
Aïe, ça sature.
Ça sature, pardon.
Ah, est-ce qu'on se.
Oui. Le film ouais.
On n'en peut plus.
On fait la rubrique Fais ton titre quand même. C'était pas prévu dans le
Noir-Série,
mais allez. Allez,
fais
rubrique
ton
Fais ton titre et après on passe au film.
Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
Fais ton titre. Ah, putain, c'est jingle. C'est jingle, c'est n'importe quoi. Alors, qui a des titres pour El Camino, A Breaking Bad
Movie.
Vas-y,
je commence, qu'il est pas bien le mien. Mon titre, c'est Le Fugitif.
Déjà pris.
Mais qu'il y a déjà un film avec Harrison Ford.
El Fugitivo.
J'ai rien trouvé d'autre.
A Breaking Bad Movie, ok.
Ouais.
Kevin, un titre ?
Moi, j'en ai deux. J'ai celui que j'aime le plus, c'est Le Camion.
El Camion. Le mec, il a fait des anagrammes.
El anagramme. Avec, si tu bouges la lettre E et que tu la mets comme ça, bim.
Et j'en ai un autre.
Ça peut faire sous-titre Le Camion, un film anagramme.
Et non, et puis j'en ai un autre qui est plus.
J'aime bien
profond,
ton idée,
tu vois. Non, enfin. Il prend cher. Parce que c'est à plusieurs sens, tu vois. Il prend cher parce qu'il en prend plein la gueule, mais il va prendre cher pour se venger. Mon gars, c'est Taken en mieux, quoi.
Grave.
Ok.
Le Camion.
Le Camion, un film anagramme, c'est marrant.
Moi, je vote pour Le Camion, un film anagramme.
Attends, Johanna,
j'ai tout tenté sur mon dernier.
Moi, ils ont pas respecté le poulet. Ouais, ok. Il est passé où le poulet?
C'est quoi ce délire? On est où là?
Parce qu'ils sont où, Polios Hermanos là? Il est où le poulet? On va manger le poulet! Ok. Titre
le poulet, oh, vos histoires là, des dragues là, les choses bleues là que tu mets dans tes orifices là. Dis-nous le poulet, oh, question personnelle, oh. Le poulet.
Je suis mal à l'aise.
Polios Hermanos.
Et toi, Romain, t'as un titre?
Et mon titre, oh. J'ai deux titres, j'en ai un que j'ai oublié, donc j'en ai plus qu'un en fait.
Vive ma vie de poisson rouge.
Il a pas besoin de se droguer, tu sais.
Ah les gars.
En fait, je voulais appeler ça le film, je voulais l'appeler Baby Blue.
Ah, ouais, ça c'est pour une référence pour les fans.
Ouais, référence pour les fans, c'est la chanson de finale, en fait, du dernier épisode, My Baby Blue. Et voilà, pour faire référence au Baby Blue que pourrait être Jesse Pinkman et qui va utiliser, qui a l'air d'utiliser par des techniques scientifiques de pièges et de machin, ouais, hein, je suis le mot et tout, qui va remettre ses leçons en utilisation. Aidez-moi à faire des phrases.
En fait, c'est leçon en pratique.
Tu vas mettre ses leçons en pratique.
Mais je sais pas où tu vas.
Ouais, je sais pas non plus. Non, qui va remettre.
Moi, j'aime bien Baby Blue.
Et qui va remettre ses
c'est
leçons en
pratique.
C'est vrai
que c'est joli, Baby Blue, c'est poétique. Mais bon, le camion, c'est plus marrant.
Ouais. Le camion, c'est
le
marrant.
Le camion, c'est plus gaulé.
En même temps, sur l'affiche, c'est une voiture.
Oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est le camion,
ça va. C'est encore plus drôle.
Bah, c'est ça la catchphrase. En même temps, sur l'affiche, c'est une voiture.
Le camion.
En même temps, sur l'affiche, c'est une voiture.
C'est une affiche et critique, un film anagramme.
Trois petits points, le camion, un film anagramme.
Anagramme movie.
Un anagramme movie, c'est pas mal,
c'est
ça.
C'est pas mal, ça.
Un anagramme movie.
Au lieu de Breaking Bad movie.
Un anagramme movie.
Bonsoir.
Bonsoir, Clémence.
Bonsoir, Clémence. La colocataire.
La colocataire vient de rentrer.
Et toi, t'as un titre, Clémence?
T'as un titre, Clémence? Ouais. Attends, okay. Viens le dire au micro. Viens le dire au micro. Ah, celui que tu veux, choisis le micro qui te...
Oui, j'ai un titre.
Vas-y, dis.
C'est quoi?
C'est Kantar, ich liebe dich. Kantar,
ah oui, parce qu'il y a des nazis.
Ich mag dich.
Ok.
Merci Clémence pour ce titre, mais t'étais pas loin de la vérité parce que le titre ça va être...
C'est une référence à Ultra Vomit, je précise pour les gens
qui
ont...
On s'y met tous ensemble, le titre ça va être...
Le camion, un anagramme movie.
Un anagramme movie, le camion et en catchphrase c'était... Je réécouterai l'enregistrement pour me rappeler. Voilà.
Hashtag poisson rouge.
Une critique presse.
Combien de saucisses? On verra après.
Non, bah, on change de journal.
Je crois que le Figaro a mis 5 saucisses. Hein,
Non, mais vous savez quoi?
5 saucisses,
vous
le Figaro.
Vous savez quoi? On fera une petite partie après critique, après avoir vu le film. Et à ce moment-là, on décidera ce qu'on met sur l'affiche par rapport à ce qu'on va dire.
Allez, vas-y.
C'est pas mal, c'est concept. J'aime beaucoup.
Maintenant, Clément, c'est l'arrivée. On se lance au film. Tu feras le match retour avec nous ou pas?
Ben ouais.
Ok, elle fera le match retour, elle reste.
Elle reste.
À demain. Et c'est ainsi que la team Feta Bea s'embarqua pour le grand voyage qu'est El Camino, a Breaking Bad movie. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'elle allait se confronter à certainement une des plus grosses douilles de l'émission. Vous le comprendrez en les écoutant dans le match retour qui arrive tout de suite. Générique. Yo, 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 1-4-8-3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch?
Walt's a scientist? Scientists love lasers. To WW, my star, my perfect silence.
You got me. I'm in the Empire business.
Yeah, bitch! Magnets! Oh!
Oui, il est 22h52.
Et ouais.
Et c'est le match retour d'El Camino.
Après des bonnes pizzas et quelques bières.
Ouais. Oui, il faut l'avouer, il faut l'avouer. Bah, on s'est fait une bonne soirée entre potes. On s'est vu un bon film, ça. On va le savoir tout de suite si c'était un bon film ou pas.
On va faire le douille ou pas douille.
On va peut-être sauter la partie résumée d'Histoire imaginée parce qu'elle était juste là.
Et oui, juste avant. Oui.
Ou alors vous revenez en arrière, quoi.
Ouais.
Tranquille.
Qu'est-ce qu'on s'était dit vite fait? On s'était dit qu'on s'attendait à un film
de vengeance,
ouais.
Ouais.
Basé sur la vengeance. On avait essayé de savoir sur qui il pourrait se venger, étant donné que un peu tous ses antagonistes sont dead dans les saisons précédentes.
C'est ça.
De Breaking Bad. Qu'est-ce qu'on a eu au final comme film?
Eh bien, pas ça.
Donc, on a vu la BA, c'est tout frais. Hein. On l'a vu il y a 2 heures maintenant.
On a vu le film, ouais.
On l'a analysé, on a vu le film entre temps. Et donc, je vais ouvrir pour ce premier hors-série la page que vous connaissez tous qui s'appelle le douille ou pas douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était une douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était pas une douille.
Le douille ou pas douille nous permet de savoir si la BA que nous avons démontée juste avant était fidèle ou pas au film et que ses attentes dont on s'était...
Attendu.
Voilà, les attentes qu'on a eues de cette BA avaient-elles été confirmées par le film ? Là est la question. Alors, douille ou pas douille, l'équipe ? Qui se lance, j'ai envie de... Allez, Clément.
Je me lance.
Clément,
ah, c'est pas évident, parce que c'est la première fois qu'on fait ça à chaud. C'est-à-dire que là, on sort du film vraiment à l'instant. Donc, j'ai peur d'être dans la réaction un peu épidermique. Le premier mot qui me vient, c'est que c'est quand même une déception.
Ouais, le mot est lâché.
Ouais, dans le sens où c'est bien fait, hein, techniquement. C'est bien joué, c'est bien réalisé. Pourquoi pas tout ce qui se passe, mais en fait le problème c'est carrément la base, c'est-à-dire est-ce que ce film était nécessaire, est-ce que la conclusion de la série n'était pas parfaite, et pourquoi vouloir ajouter ces éléments-là. Il utilise des flashbacks pour nous raconter des choses nouvelles et justifier des actions du film, et moi ça me gêne, tu vois, c'est-à-dire qu'il crée de... Il crée des péripéties qui se sont passées, soi-disant, dans Breaking Bad pour justifier les actions qu'il a dans le film. Mais en fait, il fallait nous les montrer dans la série, ces actions. Là, ça fait un peu artificiel. Chaque...
T'as pris aux branches. Quoi.
Ouais, chaque personnage a droit un peu à son moment.
Fan service.
Ça fait fan service, bien fait, mais voilà.
On va voir si Kevin est d'accord avec ce terme, fan service. Douille ou pas douille, Kevin ?
Alors, c'est un peu une douille quand même. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Clément au niveau de la construction du film, au niveau de la narration. Et même, je rajouterais un truc, c'est que j'ai l'impression que ce film n'a pas grand-chose à raconter finalement. C'est juste une conclusion factuelle d'un personnage dont on n'a pas vu la fin dans la série. Comme s'ils avaient envie juste de boucher les trous, mais sans apporter vraiment, à mon sens, une histoire ou un enjeu narratif qui soit prenant et qui justifie en fait qu'il y ait un film.
Bah, en fait, ça mène rien de nouveau ni à l'histoire ni même au personnage de Jesse. C'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il se soit transformé à la fin de ce film. Et en fait, il est juste dans la droite lignée de la série, même s'il a une forme de rédemption. Mais est-ce que c'était nécessaire ?
Nécessaire, Johanna, douille ou pas douille ?
Ben, douille quand même, parce que je sais vraiment pas si c'était nécessaire pour redire ce qui a été dit. J'ai trouvé ça... Ben, après, je donnerai mon avis plus détaillé sur le film. Mais même douille par rapport à la bande-annonce, parce qu'elle laissait présager un peu plus d'action. Et au fait, non, il n'y a pas vraiment d'action. On suit plus le parcours de Jesse qui court vers la rédemption, qui court après la rédemption, on va dire.
Ouais, bah écoute, là est la question. On va essayer de développer un peu tout ça dans un aspect critique. Alors moi, douille ou pas douille aussi pour répondre. Ouais, bah si, douille, parce que bah, l'histoire qu'on s'était imaginée un peu et puis nos attentes aussi par rapport aux petites images mystérieuses qu'il y avait dans la BA, on les retrouve toutes. Hein, toutes les images, il n'y a pas eu de douille de ce côté-là, il n'y a pas de choses manquantes. On les retrouve toutes dans le film. Mais voilà, l'histoire développée était-elle nécessaire ? Je crois que c'est la question, en fait, c'est le mot de ce soir pour ce match retour. Était-ce nécessaire ? On va passer à nos avis, du coup, pour savoir si c'était vraiment nécessaire. On va essayer de creuser un peu plus le truc.
C'est un peu dommage parce que ça ressemble quand même à un coup marketing. C'est-à-dire que là, évidemment, ça va exploser le nombre de vues, ça va cartonner sur Netflix et tout ça. Tout le monde a envie de savoir, en fait, ce qu'est la fin de Breaking Bad. Et en fait, la fin de Breaking Bad, bah, c'est la fin de Breaking Bad, la fin de la série. Ça, c'est un espèce de chapitre en plus, comme un petit bonbon qui
un
nous
petit
est donné.
Bonbon aussi.
Et je pense qu'il ne faut pas le prendre autrement, sinon on est extrêmement déçu. Et moi, je suis quand même déçu parce que, voilà, on l'a dit, c'est notre série préférée, hein, tous univers
oui,
confondus.
Oui, voilà, non, bah, je tiens à le rappeler. Hein, c'est quand même, voilà, pour ceux qui n'étaient pas là pour la BA, je suis con parce que de toute façon, ce sera collé. Je n'ai pas l'habitude de cet exercice où on fait le match retour juste après. Mais voilà, on va peut-être le rappeler aussi.
On avait d'énormes attentes.
Voilà, ouais. Et puis aussi, rappeler surtout l'essentiel, c'est que je pense que Breaking Bad, hein, sérieusement et de manière totalement objective,
dans les univers,
Breaking Bad
partout,
est simplement la meilleure série du monde entier et de tous les univers et dimensions parallèles confondues.
Et du
voilà.
Coup, oui, le
ne
film,
parlez pas de série où il y aurait un gars qui travaillerait dans la police de Miami, expert du sang et qui s'amuserait aussi d'un autre côté à être serial killer le samedi. Non, mais parlez pas de ça.
Non, on n'en parle
voilà.
Pas. On parle d'El Camino. Hein non, mais. Bon, il y a quand même des points, faut pas. Bon, il y a des points positifs. Je trouve que Vince Gilligan c'est devenu vraiment un réalisateur. Entre le premier épisode de la série que tu regardes, qui est réalisé par lui, et maintenant, il a fait d'énormes progrès. C'est très bien mis en scène. Il y a des idées chouettes comme dans la série. C'est bien joué. On est content quand même de retrouver ces personnages quand c'est pas artificiel, parce que il y en a deux ou trois qui sont là vraiment pour faire joli, quoi. Bon, on peut spoiler ou pas ?
Oui, bah là, bien sûr.
Jane, ça sert à rien. cette séquence à la fin, flashback, elle sert à rien. C'est même pas, il y a même pas de nostalgie, même pas d'émotion dans cette séquence. On est obligé de le dire, il y a quand même un invité surprise dans le film.
Oui, voilà, Donald Trump, évidemment. Donald Trump qui départ.
Enfin, pardon, mais moi j'étais pas trop surprise.
Ben moi aussi, vu que non, franchement je pensais pas qu'il y serait. Bon, il y a, on le dit, oui, on le dit, oui, bah, on le dit. Bon, il y a Walter White est dans le film, et cette séquence, à part qu'elle est mignonnette et que elle est vaguement drôle, qu'est-ce qu'elle raconte? Ah
bah, si, il y a quand même la grosse force paternelle en fait qui existe dans cette séquence, ce qui était développé aussi dans la série, un peu tu sais, la relation père-fils qu'ils avaient ces deux-là, qu'on retrouve bien dans ça, où on voit Walter White qui s'inquiète un peu de l'avenir de Jesse Pinkman. Parce que voilà, pour rappeler le truc, c'est juste un flashback. Je pense que ça correspond à leur tout début.
Oui, ils ont encore
le camping-car.
Le RV, ouais, le camping-car. Ouais.
Et donc, on a Walter White qui juste s'interroge dans un dîner où ils sont en train de prendre un petit déj sur l'avenir de Jesse Pinkman, quoi. Et ça vient conclure le film. Donc, si, il y a quand même quelque chose d'intéressant quand même à tirer de là. Mais voilà, on sent aussi que ça faisait partie un peu des critères à respecter pour sortir un film. Le cahier des charges du truc, c'est qu'il faut mettre Walter White. C'est vrai que ça nous a surpris, on a fait un petit haut quand on a regardé le film. Oh,
oui, parce que
je m'attendais à le voir.
Parce que je pensais que ça allait être une scène badass, tu vois, ou alors tu te dis c'est quoi le dernier souvenir qu'il a conservé de ce gars, et si c'est ça, c'est un peu étrange, quoi.
Mais son dernier souvenir, c'est vraiment Jane, du coup, qui arrive après.
Oui, mais de Monsieur White, tu vois.
Ouais.
On aurait pu penser qu'il gardait un autre souvenir de lui.
Ouais,
mais après, c'est peut-être juste histoire de montrer le chemin parcouru, justement.
El Camino, quoi.
Leur début, avec Walter White dans le RV, et comment il en est arrivé, justement, à la fin du film. Après, moi, je trouve que le truc, c'est que là où cette séquence est placée dans le film, ça fait un peu fanservice, je trouve.
Ouais.
Dans le sens où c'est pas une séquence inintéressante, mais son placement, là, à toute fin, un petit peu, enfin, qui sort un peu de nulle part, en fait, dans la narration. C'est vraiment histoire de dire, et rappelez-vous, c'était Breaking Bad, voilà. C'était
quand même Walter White.
C'était quand même Walter White, c'était bien, voilà. Ouais, moi je trouve ça un peu too much, en fait.
Et après, sur la série en général, qu'est-ce qu'on en a pensé?
Sur
le film, oui, pardon.
Parce que la série, on le sait, quand même, la meilleure. Voilà.
Peut-être que je le rappelle.
Oui, rappelle-le.
Oui, bon.
On a peut-être oublié.
Ok, Breaking Bad, pour ceux qui n'ont pas suivi, était la meilleure série, évidemment, de tout l'univers et le monde entier, les parallèles, dimensions de choses que j'arrive pas à mettre les bons mots dans le bon sens, mais de tout ça confondu. Voilà.
Bien sûr.
Me parlez pas
de gens
d'un
dans un café
qui essaye de s'enfuir d'une prison en s'étant tatoué le plan de la dite prison sur un dos. Me parlez pas de ça, s'il vous plaît. On parle de vraie série là. On parle série badass. Justement, le côté badass, il est pas un peu perdu dans ce film? C'est un peu ce qui qualifiait. Peut-être que le côté badass était vraiment représenté par Walter White et qu'ils ont décidé ainsi de ne pas transmettre la chose à Jesse Pinkman, parce qu'on pourrait penser que c'est la relève, en fait, bêtement.
Non, parce que. Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que Jesse, c'est pas un personnage qui est dans le mal, justement. C'est quelqu'un qui jusqu'au bout, quand il a à faire des sales besognes, est dans l'empathie, il pleure un peu. Enfin, c'est pas quelque chose qui lui plaît. Il le fait par nécessité ou parce qu'il n'a pas le choix, mais ce n'est pas quelqu'un qui va être manipulateur ou qui va prendre plaisir à faire du mal aux autres.
Parce que si je pose la question, c'est que ben moi, je pense que vous aussi, mais je m'attendais à un film un peu plus badass, avec un peu plus d'action.
Clairement.
Je m'attendais plus à un film de colère, ouais. Alors que finalement, non, c'est plus un film de... je ne sais même pas comment le définir, c'est juste il veut se casser, quoi. Mais il n'y a pas de rage, il n'y a pas de volonté de...
C'est presque un film d'apaisement, hein. Ouais,
c'est un film de Camino, quoi.
De rédemption, ouais, vous l'avez dit, rédemption, quoi. Mais rédemption tranquille, ou une petite rédemption, quoi.
Rédemption où tu prends le temps de manger des nouilles, quoi.
Une rédemption du dimanche. Non, mais il y a des séquences un peu étranges, quand même, quand j'y repense. Cette espèce de duel, là, je sais pas.
Oui.
On dirait que ça a été pareil, rajouté, tu sais, pour dire il faut quand même qu'il y ait un peu de violence.
Qu'il y ait un gunfight.
D'ailleurs, je viens de penser à un truc, c'est qu'on n'a pas résumé le film.
On pourrait peut-être le faire.
On pourrait peut-être le faire, parce que c'est vrai qu'on est en train d'exposer pas mal de choses comme ça, un peu décousues.
Vas-y, moi je le fais.
Pour en arriver à justement, on
reprend en fait l'histoire de Jesse Pinkman là où elle s'était arrêtée. Donc juste après la fin de la série, il s'est évadé du camp des nazis et en fait le premier réflexe qu'il a, c'est d'aller chez Skinny Pete, D'ailleurs, ces personnages sont plutôt bien traités, je trouve. D'aller chez Skinny Pete et Badger pour trouver refuge, cacher la voiture parce qu'il est recherché de partout.
La voiture qui donne le titre d'ailleurs au film,
oui,
aussi.
La voiture qui est une El Camino. On le savait pas, mais apparemment, c'était le modèle de la voiture avec laquelle il s'échappe.
Heureusement que c'était pas une Peugeot 206.
Putain, t'imagines.
Peugeot 206, a Breaking Bad movie.
Renault Fuego. Et du coup, il en profite pour se retaper, se remettre un peu bien, prendre une douche, prendre des fringues et tout.
Prendre une douille.
Et prendre une... Non, mais ça, c'est nous qui avons pris une douille. Non, quand même pas. Mais... Et après, bah, après c'est un... Pas un... Ouais, c'est un road... pas un road movie, mais c'est un film de...
Bah, il va essayer
de cavale. Voilà.
Il va essayer, du coup, pour s'en sortir, de récupérer l'argent de Todd, son ancien...
Tortionnaire, bourreau. Reprendre l'argent pour disparaître.
Pour ensuite rappeler le gars des aspirateurs, hein, pour ceux qui ont vu la dernière saison, ils vont nous comprendre. Le gars qui s'occupe justement de vous faire disparaître dans la nature. Parce que le chemin qu'a emprunté Walter White.
C'est une des meilleures séquences du film d'ailleurs, je trouve. Cette séquence-là où il va voir le vendeur d'aspirateurs.
Il réussit à avoir l'argent et il va voir le vendeur d'aspirateurs en mode You are the guy, you're the guy. Vous êtes le gars. C'est vous qui faites disparaître les gens. Arrêtez, c'est bon, j'ai repris votre voiture.
Et l'autre ne voit pas du tout de quoi il parle.
Ouais, jusqu'à que l'argent débarque. Enfin bon. Et voilà, en fait, c'est ça un peu le film. Et il va se retrouver du coup confronté à une autre bande qui ont traité avec les nazis. Et donc du coup...
C'est pas clair, ouais. Franchement, ça, c'est pas très clair.
C'est vrai qu'on sait pas trop d'où ils sont.
Ils ont fait de la quincaillerie pour les nazis.
Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont fait de la soudure pour les nazis qui ont travaillé sur l'équipement qui a permis de retenir prisonniers Jesse Pinkman dans leur labo clandestin. Et en fait, voilà, c'est relié sur ces gars-là qui viennent à la suite de tous les événements visiter l'appartement de Todd qui a été scellé par la police
et pour prendre l'argent,
pour trouver l'argent. Et donc, voilà, par un pur hasard, ils vont se retrouver au même endroit, au même moment. Jesse Pinkman et deux gars de cette compagnie-là. Et en fait, ces gars-là, ouais, il y a un moment pour coller à ce que tu disais, Clément, à ces gars-là qui jouent au duel à un moment avec Jesse Pinkman, duel de cow-boy.
Ouais. Ah, qui sort un peu de nulle part,
de n'importe quoi, et c'est un peu la seule scène d'action qu'on aura dans le film, et puis un peu de violence aussi.
Ouais.
Et que fait la police dans ce film?
Elle passe, elle croise, elle.
Ouais, il a une chatte de malade, ouais, ouais, à chaque fois il réussit à s'en sortir.
Bah, disons que j'ai des idées que s'éclaircissent petit à petit en décantant le film. Je trouve que le problème, c'est que ça développe des choses qu'on voulait pas savoir, par exemple comment il a été retenu captif par les nazis. Bon. C'était déjà assez clair dans la série, les gars l'ont torturé psychologiquement, l'ont retenu avec cette espèce de chaîne et tout. On n'avait pas besoin de savoir comment la chaîne a été fabriquée. Enfin,
bah, c'est
vraiment
important,
inintéressant.
C'est bon.
Et par contre, ça ne développe pas des trucs que moi j'aurais voulu savoir, genre que devient Skyler, que devient le fils de Walter White. Il y avait quand même encore quelques aspects, ou Saul, il y avait quand même quelques personnages importants qui auraient pu amener quelque chose à ce film. Et au final, on est vraiment autour de Jesse, son trauma, comment il gère son trauma.
Jesse Pinkman's movie, quoi.
Alors, ouais. Skyler, elle bosse à la boulangerie, là, dans le 5e à côté. Son fils, il va à la fac à la Sorbonne. Et Saul Goodman, il est en voyage en Afrique.
Bon, ben, je te remercie, Johanna.
Merci, Johanna.
On est rassuré sur le destin de ces personnages.
Ah, il n'y a pas trop d'aspect émotionnel.
Non, mais il y a un truc intéressant, je trouve, c'est qu'il y a un aspect hypnotique un peu dans le film. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça, c'est. Je comparais un peu à du Refn, en fait, pas dans le style visuel, mais dans la manière dont c'est construit. C'est que c'est vraiment
c'est lent déjà.
C'est très lent, ouais. Et puis comme
ça, c'est une caractéristique,
tu balades dans le temps avec les transitions justement de passé présent qui sont assez bien faites pour le coup, je trouve. Et ouais, t'es dans une espèce de truc ouaté, tu te balades en fait, et ça c'est assez intéressant. Ça aurait été mieux si ça avait raconté effectivement un truc, mais voilà.
C'est vrai qu'ils auraient pu développer vraiment quelque chose qui nous emballe plus, parce que. Ouais, c'est pas super passionnant en
là
fait,
c'est les personnages secondaires voire tertiaires, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est l'équipe B là, on est sur l'équipe B, le film en fait.
Et puis il y a un autre aspect que tu disais, Romain, c'est, si tu passes, tu vas en parler, c'est au niveau du physique.
Oui,
ça pose un peu problème.
Je voulais en venir justement, ben, ouvrons cette parenthèse. C'est vrai qu'il y a un gros problème dans le film, c'est pas vraiment de leur faute, parce que peut-être l'idée a jailli trop tard, mais c'est le physique des acteurs qui a vachement changé.
J'ai une explication.
En 6 ans, forcément, Jesse Pinkman a pris du poids.
Ils ont vieilli, ils ont grossi, clairement.
Todd,
ouais.
Le tortionnaire de Jesse Pinkman dans la série.
Et obèse.
Goddammit, hein, il a mangé tous les poulets de Polios Hermanos.
Oui, c'est ça, c'est que en fait, quand Polios Hermanos c'est fini, il fallait manger les poulets, les mecs ils ont tout mangé.
Et ce serait pas grave, mais le problème c'est que vu que c'est censé se passer, il y a plein d'images qui sont censées se passer pendant la série Breaking Bad où le gars était assez fit et tout.
Bah, ça crée un décrochement. Après, tu comprends que voilà quoi. Bon, après, tu te dis, je vais donner de moi-même pour passer cette limite-là, juste du physique, et puis me dire qu'ils incarnent un personnage, et puis on s'en fout après comment ils sont représentés. Mais c'est dur quand même. C'est assez dur.
Ça casse un peu l'immersion.
Ouais, ça casse un peu le délire. Todd était pas comme ça. Skinny Pete, il a pris 40 ans dans la gueule en 6 ans. C'est chaud. Enfin, c'est un peu assez difficile à digérer. Mais je crois pas que ce soit vraiment le gros problème du film, en fait. C'est ça le truc.
Ça ramène au problème des flashbacks. Moi, je sais pas s'il fallait en faire, en fait. Ouais. Je sais pas si c'était intéressant de revenir sur tout ce qu'il a vécu et rajouter des éléments pour te dire, regarde comme il a souffert. Je pense qu'il fallait aller de l'avant et créer des nouvelles péripéties, tu vois, de nouveaux personnages.
Moi, pour moi, ça revient à ce que tu disais, c'est que comme le film, au final, ne raconte pas grand-chose, sans les flashbacks, qu'est-ce qui reste du film ?
Je pense que peut-être que ça les intéressait de conclure l'arc Jesse Pinkman. Mais en fait, on se rend compte que la série sans Walter White, sans la famille de Walter White, sans Saul Goodman et sans tous ceux qui sont derrière, c'est assez compliqué, quoi. Parce que là, on est vraiment plus sur des... Ils n'ont pas vraiment d'intervention dans tout le long du film. Il n'y a pas un personnage qui reste du début jusqu'à la fin, à part Jesse Pinkman.
Ouais.
En fait, il fait juste que les rencontrer un à un. Badger, Skinny Pete, hop, on passe à un autre acte. On a un flashback avec Mike, on a un flashback avec Jane. Il revoit qui de la série d'avant ? Ben, le gars qui fait disparaître les autres, c'est tout.
Le gars qui détruit les voitures. C'est pareil, c'est un peu bizarre aussi. Le mec là qui détruit la voiture, puis en fait, non...
Sa présence est un peu inutile.
C'est un happening comique. Ouais, je sais pas, c'est bizarre.
Je sais pas, après bon. Putain, la déception. La musique peut-être ? La musique est
cool. La musique est très bien, on retrouve Dave Porter qui faisait la musique dans la série et qui est très bien. Mais ouais, voilà, techniquement, il n'y a rien à dire.
Moi, j'ai beaucoup aimé la photographie.
Il y a quand même un bon passage au côté cinéma. C'est pas raté dans la série, c'est qui est pas raté. On a quand même une belle réalisation dans les codes du cinéma. On n'a plus le grain, par contre on perd le petit grain que j'aimais bien dans Breaking Bad, c'est dommage.
C'est
Netflix quoi.
On perd la caméra à l'épaule aussi, on est sur des plans un peu plus stabilisés.
Ça prend plus son temps pour faire de la mise en scène, du cadrage et tout quoi. Dommage que le scénario suive moins.
Bah, je vois vos petites mines là, je suis déçu. C'est l'heure ou c'est vraiment le film qui vous a fatigué, c'est le flou.
C'est la faute du film.
Je suis trop triste, putain, c'est dommage.
C'est un peu dommage.
C'est complètement con, quoi. Putain, les gars, merde. J'envoie un message à AMC, Netflix and Company. Les gars, oh.
Oh, les et.
Ah, vous auriez pu.
Quand même, hein. Ça a coûté combien cette histoire
Ça pourrait être une belle critique. J'ai envie d'ouvrir une nouvelle page qui sera plus la note BDR, mais on part sur la critique. On verra comment ça se passe après pour leur série. Mais pour le coup, allez, faisons ça. On va mettre une critique qu'on va tout de suite coller sur notre affiche, du coup. Donc, on a la catchphrase, on a le titre du film. Et est-ce qu'on va pas essayer de se trouver une critique, là ? Essayer de condenser vous-même une critique en imaginant peut-être un magazine, un journal rigolo. Ça peut être marrant, ça.
Moi, je mettrais 2 saucisses et demi et le chemin est terminé.
2 saucisses et demi.
sur 5, je mets la moyenne.
Moi, ça serait plutôt un 2 poignées et demi.
Pourquoi poignée, Kevin ?
Parce que je travaille chez Mediaport. Oui, 2 poignées et demi, et ce qu'on pourrait dire, c'est...
Ouais. Tu veux le dire ?
Il y a Clémence qui... Ah oui, on est en live, là, en fait, j'ai oublié de le préciser. On a un spectateur.
Avec son petit plaid là en train de vous regarder.
Il y a Clémence qui avec son petit plaid qui est en train de nous regarder là. Ça fait flipper. Terminez vite que j'aille dormir.
Ouais, ça pourrait être le Mediaport. 2 poignées et demie du coup. Et ben ça voulait claquer mais ça n'a pas fait de bruit.
Oh, oh
oui.
Kevin, le Mediaport.
C'est habile.
Mediaport. Johanna, une petite critique pour ce.
Bah, Johanna, toujours du Figaro de magazine, hein, bien sûr, ça n'a pas changé. Moi, je mets 2 saucisses.
Je n'ai pas la moyenne.
2 saucisses sur 5.
Ma critique, c'était était-ce bien nécessaire ?
Ouais.
Voilà.
Et toi, Romain, tu travailles pour quel média déjà ?
Alors, moi, je vais travailler. Là, pour le coup, il faut rappeler que le film s'appelle Le Camion, un anagram movie, et je travaille pour Dyslexic Magazine. Et je mettrai un flim bof. Voilà. On part sur quoi ?
Mais celle de Kevin.
Oui,
non,
mais
celle de Kevin.
Allez, Mediaport.
De Mediaport. Mediaport.
Il va falloir que tu trouves un emoji poignet quand même.
Le fameux journal sur Internet qui ne parle que de portes.
Voilà. 3 poignées. trois poignées.
Et retrouver d'ailleurs
non, c'est deux poignées et demie.
Et retrouver notre hors-série sur les portes en chaîne massif.
Oui, n'oubliez pas, ce sera dans le numéro 452 de Portes et Vitraux Magazine.
Numéro anniversaire. Hein.
Numéro anniversaire,
ça
bien
fait
sûr,
5 ans.
Avec une rédactrice en chef. On fait un gros bisou à Thérèse Goudin. Thérèse Goudin qui s'occupe de Portes et Vitraux Magazine. On t'embrasse, Thérèse. On sera là, évidemment. On ramène les gobelets en plastique.
Excusez-nous, on a craqué comme Jack.
Ah,
mais qu'est-ce qui t'arrive là avec ton
Excusez-nous, on a craqué. Ah, c'est un super
tag. C'est pour ça qu'il faut.
Je refuse que l'on me coupe.
Hop, vas-y.
Excusez-nous, on a craqué.
Ok. Voilà. Non, mais là. Bon, El Camino. Pof.
Est-ce qu'il est pas tendre?
Ouais, bah là. C'est dommage, il a été un peu notre sourire. C'est des... Voilà, parce que quand même, c'est le film de la série Breaking Bad qui est, je le rappelle, la meilleure série du monde et de tous les univers
Navarre,
et autres dimensions parallèles confondues. Hein.
Et qu'on vienne pas te parler surtout de...
Venez pas me parler d'un gars qui aurait comme ça trouvé la solution. J'ai pas des séries en fait.
La solution. Il a la solution.
Voilà.
Oui, oui.
Bon, bah, sur ces bonnes paroles, je crois qu'on se dit au revoir. Hein.
On veut pas de notes. Ah non, c'est fini.
Non,
j'ai oublié
la note BDR.
Ah, j'ai trop les habitudes à l'ancienne, moi.
On passe aux au revoir.
Jesus, Walt, the news here. Gus Fring is dead. He was blown up along with some person from some Mexican cartel, and the DEA has no idea what to make of it. Do you know about this, Walt? I need you to.
It's over.
What happened?
I won.
Voilà, voilà, c'était El Camino, le film Breaking Bad Movie. La bande-annonce et le film visionné et le match retour condensé dans un seul épisode de notre premier hors-série. Il y en aura d'autres, à mon avis. Restez à l'écoute. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute, évidemment. Il n'y a aucun problème. pour nous trouver, tapez FETABA dans Google. Hein, ça ira beaucoup plus vite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'appellent comme ça par nous.
Qu'est-ce qu'il a?
Je sais pas.
Il a craqué. On dirait qu'il refait un AVC comme l'autre.
Je sais pas, j'essaye un peu de noyer dans la folie, ma déception, ma petite déception. On se retrouvera pour la suite de nos aventures dans les épisodes normaux. Et en tout cas, c'était cool de parler de Breaking Bad avec vous autour de la table aujourd'hui.
Absolument.
C'était vraiment cool.
On va rester sur notre souvenir de la série.
Voilà.
Et surtout, tu remates la série, c'est de la merde.
Non, mais je dis ça parce que voilà, peut-être que vous avez pas compris, mais je crois vraiment que Breaking Bad est certainement la meilleure série.
Attends, je fais des bruits de micro
du
pour le faire chier.
Monde entier et de tous les univers parallèles confondus. Je voudrais qu'on parte en musique, voilà, parce qu'El Camino, hein, ça nous rappelle quelque chose.
C'est quoi?
Bah déjà que ça veut dire quoi
chemin.
En français? Ça
le
veut dire le chemin.
Le chemin.
Allez, on part
Allez,
en musique.
Allez, salut les amis.
Gros bisous tout le monde. À la prochaine hors série à toutes.
Au revoir. Au revoir.
Regarde-toi, assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ombre. Fantôme qui
je t'aime.